dedicated to all you beautiful people around the world. We say,
Yolo!
Auditrices, auditeurs de Radio Mindeléo, bon dimanche à vous et merci de nous avoir choisis. Nous, c'est Radio Mindeléo dans notre émission Paix et Développement de ce dimanche 15 décembre 2024. Jean-Claude Ndagué est à la mise en onde devant le micro Thaïs Bagoula. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30, heure de Bukavu. Dans cette émission Paix et Développement, nous allons parler de la fin de la session de septembre à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais également dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Quel est le travail qui a été fait par les élus? Vous allez vous rappeler que c'est le 23 décembre 2023 que nous avons voté pour les députés nationaux, pour le président de la République, les députés provinciaux, mais également les conseillers communaux au niveau de la République démocratique du Congo. Nous allons voir les travaux qui a été fait avec des acteurs politiques et sociaux de la société civile plutôt dans cette émission Paix et Développement. Dans cette émission Paix et Développement, nous allons également revenir sur les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les discours sur l'état de la nation, et il a abordé 6 axes prioritaires de son programme quinquennal. Comment vous avez trouvé les propos du chef de l'État? Nous allons également parler avec les acteurs de la société civile, également les acteurs politiques, dans cette émission Paix et Développement. Merci, nous allons dire merci encore une fois aux auditeurs qui sont en train de nous suivre à travers les radios communautaires qui prennent cette émission en relais. Il y en a beaucoup sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu, à Walungu. Nous saluons la radio Mulangane et surtout à ses auditeurs. Nous saluons également les auditeurs des autres radios qui sont dans la plaine de la Rosizi, à Kalehe, également à Idjui. Nous rappelons que la rediffusion de l'émission, c'est tous les lundis à partir de 19h30 sur Radio Mindeléo. Nous sommes suivis également sur Internet sur le www.radiomindeleo.org. Dans quelques instants, donc, nous allons commencer notre émission Paix et Développement. Voilà. Merci, chers auditeurs. Nous allons d'abord accueillir dans ces studios les invités qui sont dans ces studios. Nous sommes avec Patient Katembera, qui est le coordonnateur de la cellule de communication gouvernorale des provinces. Bonjour, Patient Katembera.
Bonjour, Thaïs. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue les débatteurs ici présents. Je salue toute la population de la province de Sud Kivu.
Voilà, nous sommes dans ces studios avec les conseillers communaux, élus de Bagira.
Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour à tous les auditeurs de la RAMA. Bonjour également à tous les débatteurs ici présents.
Voilà, c'est les rapporteurs.
Je suis les rapporteurs à ce jeu du collectif des conseillers communaux de la ville de Bukavu.
Ah, ok, merci beaucoup. Voilà, dans ce studio, nous sommes avec Amos Bissi, moi qui est militant du mouvement citoyen Obapège RDC. Bonjour, Amos.
Bonjour, cher directeur. Je profite de ce micro de la radio Mindeléo pour saluer les débatteurs avec qui nous allons débattre aujourd'hui. Je salue la population congolaise. Je continue à dire polé au peuple congolais qui souffre de la mauvaise gestion du pays aujourd'hui. Je salue tous les militantes et militants du grand mouvement Obapège DRC. Certes, les militants de la ville de Goma, où nous avons installé le mouvement la semaine passée.
Merci. Dans ce studio, nous sommes avec Bernard Zagabe Biogo. Il est du PPRD. Bonjour, cher ami Bernard Zagabe.
Je vous salue, monsieur le directeur. Nous saluons toute la population de la province d'ici de Kivu. Surtout, tous ceux qui ont décidé à rester attaché à une très grande vision de la sauvegarde de la nation prônée par le président honoraire Joseph Kabila Kabange.
Merci beaucoup. Dans ce studio, nous sommes avec Augustin Mudekereza. Il est communicateur du PPRD. Augustin Mudekereza, bonjour.
Bonjour Thaïs, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux combattants et combattantes de l'IDPS Tshisekedi.
Merci. Voilà, avant de commencer de parler politique, nous allons d'abord recevoir deux personnalités dans ces studios. Il s'agit de Madame Aline Migo Feza, elle est la chef d'antenne du projet Transforme, ville de Bukavu. Madame Aline, bonjour.
Bonjour Monsieur Thaïs, bonjour cher auditeur.
Merci. Paulin Mugisho, point focal du consortium de mise en œuvre du COPA, c'est un concours de plan d'affaires Transforme. Bonjour Paulin.
Bonjour cher directeur.
Voilà. Vous allez approcher le micro et parler à haute voix. Oui. Voilà. Et nous allons vous recevoir. J'espère que les amis qui ont le petit et moyen d'entreprise vont bien nous suivre parce que il y a justement ce concours de plan d'affaires qui est lancé. Et donc, c'est une chance que l'on accorde à certaines personnes qui ont de PME de pouvoir compétir et obtenir un appui. Voilà, Madame Aline, vous êtes la chef d'antenne du projet Transforme. Le projet Transforme, c'est quoi?
Merci beaucoup, Monsieur Thaïs, pour la parole. Le projet Transforme, c'est un projet du gouvernement congolais en partenariat avec la Banque mondiale. Donc, c'est un projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des petites moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi. C'est la dénomination même du projet Transforme. Nous sommes dans 13 villes de la République démocratique du Congo et nous appuyons les initiatives des entrepreneurs qui sont dans les secteurs de la transformation, notamment l'agro-transformation, l'industrie légère, les services à valeur ajoutée, mais aussi l'entrepreneuriat social. Le projet a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs pour créer les marchés locaux, au niveau local, mais aussi pour limiter les taux d'importation des produits de première nécessité. Nous sommes ici depuis l'année passée, depuis le mois de juin de l'année passée. Nous avions commencé à informer à l'écosystème entrepreneurial de l'existence du projet. Et c'est depuis le mois de février de cette année qu'on a implémenté nos activités sur terrain. Le projet accompagne trois groupes de bénéficiaires, notamment les femmes micro-entrepreneurs, regroupées au sein de structures d'encadrement des femmes. Nous accompagnons aussi les petites et moyennes entreprises, c'est la deuxième catégorie, mais aussi les nouvelles entreprises. Comme vous le savez, les projets n'implémentent pas les activités sur terrain, et ce sont les firmes et les cabinets de mise en œuvre qui implémentent les activités au nom du projet. Et donc, Transforme accompagne et supervise les activités de nos cabinets ou des firmes de mise en œuvre. C'est pourquoi je suis venue avec M. Paulin, dont leur cabinet a été sélectionné pour accompagner la phase qu'on appelle COPA. COPA, c'est quoi? COPA, c'est le concours des plans d'affaires. Je pense que M. Paulin a fait tout quoi en Afasiria, kwa ufupi, COPA ni nini?
Tout à fait.
La, na wanani wanastaili kusindikiziwa kwa COPA.
Voilà.
Karibu, M. Paulin.
Voilà. Merci. Voilà, vous avez la parole.
Oui, COPA, comme Madame Aline a dit, c'est un concours de plans d'affaires qui des cibles, ça veut dire les petites et moyennes entreprises. Et petites et moyennes entreprises, c'est toute entreprise dont l'âge est qui a un RCSM, qui a le RCSM depuis des 3 ans. Et deuxième cible, c'est les nouvelles entreprises. C'est toute entreprise dont l'âge de l'IRCSM est de 3 mois à 3 ans. Ce sont ceux-là les deux cibles. Et pour les petites et moyennes entreprises, dans toute la RDC, la République, parce que le projet est dans 13 villes, Et pour ce qui est de l'Est, nous sommes à Bukavu, nous sommes à Goma et à Bunia. Et les projets poursuivent, comptent subventionner, accompagner 800 petites et moyennes entreprises. Et si vous faites des calculs, si on devait partager équitablement par ville, ça veut dire si on aurait 62,5 ou bien 63 entreprises par ville. Mais comme c'est un concours, ça veut dire que c'est ceux-là qui pourront amener des projets bancables et ce sont ceux-là qui pourront bénéficier de la subvention. C'est pour cette raison que nous sommes venus encore appeler à la conscience déjà des PME de Bukavu qui, depuis le 4 novembre, c'est la date où on a lancé l'appel à candidature. Et l'appel à candidature va faire prendre fin le 31 décembre de cette année. Et jusqu'à aujourd'hui, les PME, seuls, il y a 17 PME qui ont déjà soumissionné leur projet. Et la soumission du projet, c'est tout en ligne via la plateforme.
D'accord. Voilà. Et il faut être dans quel domaine d'activité pour concourir?
Je l'avais dit, les projets accompagnent les initiatives des entrepreneurs qui sont dans le secteur de la transformation, notamment l'agro-transformation, l'industrie légère, les services à valeur ajoutée, mais aussi l'entrepreneuriat social. Ce sont les quatre secteurs que les projets avaient sélectionnés et les entrepreneurs seront subventionnés en termes de ces secteurs.
Et donc, vous dites que le concours, c'est en ligne. Alors, comment obtenir tous ces éléments, toutes les informations, ceux-là qui sont intéressés, certainement qu'il y a ceux-là qui sont en train de nous suivre et qui souhaitent envoyer leur plan d'affaires et concourir. Alors, comment obtenir toutes les informations? Certainement que vous avez eu des séances préliminaires avec beaucoup de gens, mais maintenant la phase est décisive. Il y a d'autres peut-être qui n'ont pas participé à des rencontres précédentes et qui peuvent vouloir concourir.
Oui, pour avoir les informations, comme on disait tantôt, il y a une plateforme qui a été créée et c'est cette plateforme, c'est copa.transform. Si vous allez dans Google, vous pouvez facilement accéder à cette plateforme ou bien passer par le site de Transform. Et là, en faisant www.transform.cd. Et si c'est la plateforme, vous pouvez avoir les critères. Pour les PME, il y a 9 critères pour être éligible. Et il y a pour les petites et moyennes, les nouvelles entreprises, et il y a seulement 7 critères. Et alors, pour ceux-là qui sont sur Bukavu, nous organisons les séances d'orientation pour ceux-là qui ont des PME, et chaque mardi et chaque jeudi de 10h à 12h. Et ceux-là qui ont des difficultés à pouvoir postuler, ils peuvent venir se joindre à nous. Et notre bureau, c'est non loin de chez Mangaz, en face de chez Mangaz.
Voilà. Merci beaucoup. À moins que Mme Aline ait autre chose à dire.
Monsieur le directeur, nous avions remarqué que les processus dans la ville de Bukavu n'avancent pas comme ailleurs. En fait, chaque fin de la semaine, nous sommes en train de consulter les sites et nous avions remarqué qu'à Bukavu, depuis le 4 novembre jusqu'à nos jours, c'est seulement 17 PME qui ont déjà postulé. Et donc, si les PME n'arrivent pas à envoyer leur candidature, c'est la perte de la ville de Bukavu, surtout que c'est une compétition entre les villes. Donc, le projet va accompagner les villes selon le dynamisme de chaque ville. Je rappelle que nous sommes dans 13 villes de la RDC. Si les PME de Bukavu ne candidatent pas, ça sera la perte de la ville de Bukavu.
Voilà. Et donc, les auditeurs sont en train de nous suivre. Bernard, vous voulez essayer aussi?
Oui, je voulais féliciter et encourager les amis du projet Transforma.
Merci beaucoup.
Parce que nous sommes en train de suivre la rigueur avec laquelle ils sont en train d'œuvrer. Mais il y avait quelques deux, trois éléments que je voulais intégrer, soit solliciter. D'abord, par rapport aux entreprises qui sont en train d'être sélectionnées. J'ai félicité votre rigueur par rapport à cette critère où vous avez demandé que les entreprises soient en ordre avec les services étatiques, et entre autres le numéro RSSM, sécurité sociale et ainsi de suite. Mais je me suis dit, il ne suffit pas d'avoir le numéro d'affiliation à la CNSS, mais plutôt, peut-être, il aurait fallu que les entreprises présentent les attestations de régularité. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir soumissionner parce que seulement il y a opportunité.
Exactement.
Mais est-ce qu'ils payent pour leurs agents? Est-ce qu'ils sont en ordre avec la régularité de la sécurité sociale? Ce qui peut aussi garantir la performance si un jour le bailleur pouvait passer pour évaluer. Deuxième préoccupation, je vais solliciter que les amis du projet Transforma puissent réfléchir en dehors. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est quadrillé par rapport à la ville, mais nous, villageois, nous qui sommes plus attachés au village, je me mets dans mon groupement, dans nos deux groupements d'Iran Bikatana et le groupement de Bougoré, où je vois les paysans sont structurés, très organisés, surtout en matière de production de tomates, par exemple, si je ne peux prendre que ça. Vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas peut-être pris le risque là de s'organiser en entreprise, mais ils sont structurés avec des effets palpables, avec des actions palpables. Si jamais Bukavu n'arrive pas à concourir, je plaiderai peut-être pour que nous, du périphérie de la ville, que nous puissions accéder aussi à ces projets, parce que ce que nous produisons est directement consommé dans la ville de Bukavu.
Voilà. Très bien, voilà, vous avez la parole.
Oui, par rapport à la question de savoir, disons, pour ça ne suffit pas seulement d'avoir le niveau de la CNSS, les numéros au niveau de la CNSS, mais vous demandez à ce que nous puissions demander l'attestation de régularité. Et oui, quand vous parcourez les questionnaires, vous allez voir. Il y a des documents qu'on voit, les pièces jointes, parce que la plateforme, comme je disais, il y a un formulaire d'appel à candidature, il y a autant de questions qui sont demandées, et à la fin, à la dernière série de questions, il y a une partie où vous devez joindre les preuves de paiement au niveau de la DGI, au niveau de la CNSS, au niveau de l'ONEM. Et alors l'idée ici, comme l'objectif du projet, c'est pour encourager les PME de créer les emplois formels. Et quand on crée les emplois formels, ça veut dire que c'est pour réduire les taux de chômage qui, aujourd'hui, dans notre pays, est trop élevé. Donc, on a tenu compte de cela.
D'accord. Et, merci beaucoup.
Pour répondre à la deuxième question, Monsieur Bernard, vous le savez, chaque projet a ses limites. C'est pas que nous faisons la discrimination de ne pas aller dans les territoires ou en dehors de la ville de Bukavu, mais pour ces projets transformés, la limite c'est la ville de Bukavu seulement. Et nous supposons, pas nous supposons, mais c'est la réalité, les projets ou les entrepreneurs qui sont dans la transformation dans la ville de Bukavu vont travailler en synergie avec nos producteurs au niveau de nos villages. Et donc, les projets, il y a beaucoup d'intervenants dans les projets et il y a beaucoup de bénéficiaires directs et indirects. Pour le cas du projet Transforme, c'est un cas qui est spécifique pour les transformateurs de la ville de Bukavu parce que c'est un projet urbain. Je peux dire qu'avec les projets, parce qu'il y a d'autres projets ici dans la ville de Bukavu, soutenus ou accompagnés par la Banque mondiale, comme par exemple le projet Picaget, qui intervient dans les territoires et il travaille directement avec les avec les paysans ou les producteurs au niveau de nos territoires.
Merci. Oui. Voilà, merci Madame Aline Migo Feza. Je rappelle que vous êtes la chef d'antenne du projet Transforme Ville de Bukavu. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame.
Merci beaucoup, monsieur le directeur.
Merci aussi à Paulin Mouguichot, qui est point focal du consortium de mise en œuvre du COPA, qui est un concours de plans d'affaires transforme. Merci, Paulin.
Merci, directeur.
Voilà, nous allons vous souhaiter bon dimanche.
Merci.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Pourquoi ce calme? Pourquoi ce silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant, on s'en fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait?
Voilà. Merci, chers auditeurs des radios Mindeléo. Comme vous le savez, vous l'avez suivi, il y a eu encore une fois des nominations au niveau du gouvernement provincial, notamment à la DPMR, dans la cellule antifraude, à la direction de la paye. Beaucoup de gens ont été nommés. Nous disons félicitations à ceux-là qui ont reçu la confiance des autorités au niveau de la province du Sud Kivu. Pour les SAN également, c'est là qui sont en train de pleurer. Et voilà, nous allons donner la parole à Patient Katembera. Il est de la cellule de communication du gouverneur de province. Ça fait la une, les gens donnent des critiques. C'est là qui ont été chassés du boulot, sont également en train de pleurer. Ben, mais c'est ça. En fait, nous pensons que cette fois, les équipes sont au complet, que le travail va devoir commencer. Surtout, le travail de mobiliser les recettes, parce que la population a besoin, en tout cas, de voir le gouvernement provincial agir. Et pour aussi bénéficier encore du pardon de la population, du fait qu'il a hérité un budget qui n'était pas voté à l'Assemblée provinciale, c'est un budget du gouvernement passé. Mais voilà, il a fait voter un budget au niveau de l'Assemblée provinciale pour l'exercice 2025. Et pour réaliser ce budget, il faudra en tout cas le concours des personnes qui ont été désignées à la DPMR, également à l'antifraude. Mais il y a beaucoup de plaintes, patient Katembera.
Oui, Thaïs, il faut d'abord commencer par dire que le gouverneur Jean-Jacques Purusi a présenté et défendu un budget par devant les députés à l'Assemblée provinciale. Et après avoir répondu aux différentes questions des élus provinciaux, ces derniers ont trouvé utile de voter le dit budget, un budget qui, pour la toute première fois dans l'histoire de notre province, a été voté à 100%. Hein? Et donc, ils ont été convaincus de tout ce que le gouverneur a dit, ils ont été convaincus de la manière dont les choses avaient été présentées, parce qu'en fait, c'est un budget qui répond à un programme ambitieux qu'il avait présenté et sur base duquel son gouvernement provincial avait été investi par l'Assemblée provinciale le 28 juin 2024. Donc, il y a de cela quelques mois. C'est pour autant dire que les sociales de la population et beaucoup d'autres projets de développement sont prévus. Il a également tenu compte des quatre secteurs de la décentralisation, entre autres l'enseignement et pourquoi pas l'agriculture. C'est au vu de cela qu'il faut ou il fallait qu'il ait des personnes qui puissent l'aider à atteindre les résultats. Parce qu'il est tenu aux résultats, il doit tout faire pour que la population du site qui vous sente le développement longtemps attendu
par nous tous, par tout le monde, et c'est pour ça qu'il a nommé, comme d'ailleurs tout le monde s'y attendait, il a nommé déjà dans différents services, entre autres dans trois services, et donc vous l'avez dit, la 2PMR, l'antifraude et les services de paix. Pourquoi il en est arrivé là? C'est parce que, vous savez, comme vous veniez de le dire, il a non seulement hérité un budget du gouvernement sortant, ce qui est tout à fait normal au nom de la continuité des services publics de l'État, mais aussi il a hérité le personnel, un personnel qui n'était plus très concentré au travail, parce que comme vous pouvez le croire, les gens à l'antifraude commençaient à marchander avec les contribuables, ils se mettaient d'accord au sujet de ceci ou de cela, pour qu'ils perçoivent quelque chose, pour qu'ils perçoivent des pourboires afin de minorer la taxe, si pas exonérer totalement. Et cela n'a pas facilité la tâche, non seulement au coordonnateur de cette cellule d'antifraude, mais aussi à tout le gouvernement. Parce que lorsque déjà on a les personnes qui ne sont pas acquises à la cause de l'autorité, ou même à la cause de la province, parce qu'il s'agit de la province ici, on ne peut rien gagner, on ne peut rien maximiser comme recette, et par voie de conséquence, on ne peut pas avoir le moyen d'appliquer sa politique. C'est là qui consiste à améliorer les infrastructures routières, que l'eau coule au robinet, que les courants arrivent au compteur, que l'électricité donc soit un droit acquis et la sécurité, parce que pour le professeur Jean-Jacques Pouroussi, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et aujourd'hui d'ailleurs, la sécurité c'est le deuxième nom du développement. Voilà pourquoi il a procédé à des nominations. Vous avez parlé de grincement des dents, c'est tout à fait normal, c'est la loi de la nature. Toutefois qu'il y a de nouvelles nominations, il y en a qui grincent les dents, il y en a qui glorifient les seigneurs. Donc, à la fois, il y en a qui sont contre le gouverneur pour aussi pour avoir perdu leur emploi. Nous leur concédons cette attitude-là parce que c'est tout à fait normal. À la fois, il y en a qui sont en train de prier. Aujourd'hui, il y en a qui sont partis à l'église pour dire « Mungu bariki pour aussi ». Donc, nous ne pouvons condamner personne. Nous ne pouvons pas condamner ceux qui ont été remplacés. Nous ne pouvons pas non plus condamner parce qu'eux aussi, ils ont cédé leurs droits. On sait effectivement que c'est une situation générale. Akuna kazi muinchi, y compris dans notre province. Ce n'est pas seulement dans notre province qu'il y a
Mais est-ce que cette fois-là, on a respecté la géopolitique parce que lors des premières nominations, on disait qu'on a privilégié les gens de chez Bernard Zagabe, on a laissé les autres. Je crois que Defo Valibuno qui est dans ce studio. Bonjour Defo.
Nous disons bonjour Thaïs, nous disons bonjour à tous les auditeurs, des milliers, des centaines et des millions d'auditeurs qui nous écoutent à cette heure, qui écoutent Mendeleo, qui nous a donné cette chance de parler.
Merci beaucoup.
Nous disons merci pour l'invitation.
Voilà, disons, j'étais en train de taquiner Patient Katembera, je disais, est-ce que cette fois-là, la géopolitique a été respectée parce que on disait que c'était seulement les gens de chez Bernard Zagabe qui étaient nommés. Je sais que vous aussi, vous avez fréquenté ce coin-là. Vous avez même des intérêts de l'autre côté. Bon, est-ce que tout cela a été respecté? Mais aussi, on dit que on n'a pas tenu compte du diplôme, ainsi de suite.
Oui, Thaïs, je voudrais d'abord signaler. En fait, je le disais tantôt, quand il y a de nouvelles nominations, il y en a qui sont mécontents, il y en a également qui sont contents. Ceux qui sont mécontents peuvent être de tel ou tel autre territoire. Et donc, d'ailleurs, d'une manière générale, c'est dans tous les territoires qu'il y en a qui ont célébré, et aussi dans tous les territoires, il y en a qui n'ont pas été contents. Mais ce qui est aberrant est que même des personnes qui ont été amplement servies, si ce n'est pas vous qui avez été nommé, vous pensez que le gouverneur des provinces n'a pas nommé les gens de votre territoire. J'ai été sidéré de voir que la COBACAL, qui est la communauté des Bahavu de Calais et Littoral, a fait une déclaration alla dans le sens de tromper, de mentir même que l'autorité provinciale n'a pas pris en compte les membres de sa communauté, de Calais. Alors que moi, dans mon service à moi, la cellule de communication, le service que je coordonne, je compte déjà 3 personnes de cette communauté Kobakal. En commençant par le coordonnateur adjoint de la cellule de communication et 2 autres membres, dont une femme. Au cabinet du gouverneur de province, le gouverneur n'a droit qu'à 10 conseillers. Il y a déjà 2 conseillers de cette communauté, de Calais donc, le conseiller en charge de mine, le conseiller juridique du gouverneur de province. Dans tous les services, il y a des membres de Calais. Mais vous avez suivi avec nous, et au grand regret, en tout cas avec amertume, que les gens de Calais ont dit qu'ils n'étaient pas, qu'ils n'étaient pas concernés par ces nominations. Alors que nous le voyons, même
pas les gens
dans
de Calais.
Dans le cabinet ministériel, oui, Thaïs, déjà d'une organisation, mais qui porte le nom d'un territoire,
voilà.
Mais dont l'organisation est ancrée sur le territoire. Dans le cabinet ministériel, nous en trouvons plus. Et donc, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'ils étaient entre eux de parler avec leur intelligence ou ils étaient tout simplement instrumentalisés? Et c'est pour ça que nous avons demandé, nous allons d'ailleurs demander à tous les membres de cette communauté qui se trouvent à la fois au cabinet du gouverneur, qui est dans les différents services, dans le cabinet ministériel, de se prononcer parce que ça n'est trop. Vous êtes nommés, mais... parce que ce n'est pas vous qui avez été pris comme personne, vous pensez qu'on n'a pas servi votre communauté.
D'accord,
c'est aussi, c'est, en fait, il y a, je l'ai dit, il y a un problème de chômage. C'est un problème général à travers, donc sur toute l'étendue de la République. La province du Sud-Kivu ne peut pas se dérober de ce défi-là. C'est un défi auquel nous sommes confrontés. Et malheureusement, Thaïs, tout le monde commence à penser que c'est un politique qui doit avoir du boulot. Les gens ont ignoré. Voyez, les amis, les compatriotes que vous venez de recevoir ici, ils ont créé le boulot. Pourquoi on ne peut pas créer le travail? Pourquoi on ne peut pas entrer dans l'entrepreneuriat? Et donc, tout le monde aujourd'hui commence à penser qu'il n'y a qu'en politique où il peut être engagé.
D'accord.
Et les gens ont oublié de multiplier les efforts pour qu'ils puissent et aussi créer des emplois. Et voilà, c'est pour ça que le Guinée, pour aussi aujourd'hui, tout le monde, il n'y en a pas tout le monde, mais en tout cas, certains pensent qu'il n'a pas servi. Mais en tout cas, tous les territoires se trouvent au cabinet, tous les territoires se trouvent dans les différents services et dans les différents cabinets ministériels.
Voilà, nous vous attendons au tournant. Nous pensons que vous allez produire du boulot parce que c'est ce qui intéresse la population. Ce qui nous intéresse, nous, ce ne sont pas les nominations que l'on mette tel ou tel. Nous allons voir le travail que vous allez nous produire parce que nous voulons que les routes, tout pite quoi venir industriel, tout on va avoir comme Zuri, tout de Guiamba, tout coûte comment, il va avoir à quoi dans le cimetière. Il y a Rosizi, combien les nominations. Donc, nous allons demander aussi aux députés provinciaux de nous aider parce que il y a des audios qui ont fuité. Bon, je ne sais pas comment les élire. Et ils ont déjà des avantages comme députés, mais qui cherchent encore à imposer des gens et à vouloir réclamer que non, tu les recommandais, va, toi, va, coupita. Mais finalement, c'est vous-même. Hein? Quand vous avez déjà des avantages comme député, quand vous lisez les budgets, on doit vous payer, vous avez des émoluments venus de Kinshasa et d'autres en province. C'est comme si c'est vous-même. Hein? Hein? C'est vous-même, et pourtant, il faut que l'on mette vos membres de famille, vos enfants, vos... ainsi de suite. Moi, je crois que les députés provinciaux doivent aussi nous aider. Ils font pas que cette question soit une question de déstabilisation des institutions. Hein? Il faut mettre d'autres personnes parce que il y a d'autres personnes qui n'ont pas de connexion, hein? Qui ont droit au boulot. Hein? Il y en a même à l'opposition. Pourquoi on ne peut pas prendre l'enfant de Bernard ou je sais pas. Mais oui, tout le monde a besoin, surtout qu'il s'agit de mobiliser les recettes. Mais on a constaté, malheureusement, Amos, bonjour.
Bonjour Thaïs. Je venais de suivre Pascal Katembera, qui est le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat. Mais aussi, comme tout le monde l'a suivi, pour ce qui est du budget de l'année 2025 qui venait d'être présenté par le gouverneur et voté par nos élus il a dit et nous tous nous l'avons suivi à 100%. Je n'ai pas compris, mais tout le monde à 100%, je me demande, est-ce que nos élus ont lu ou ils ont eu le temps de lire ces budgets? Vraiment, c'est une honte, encore une fois, pour la province. Je n'ai rien compris. Personnellement, je n'ai rien compris. Si vous essayez de lire ce budget...
Non, nous ne sommes pas en train de parler du budget.
Parce
qu'il est en train de parler de nomination.
Tout à fait. De nomination au niveau de la
nous allons parler. Nous allons parler du budget prochainement parce que nous-mêmes, nous ne l'avons pas lu. Peut-être que vous avez eu l'occasion de le lire, mais moi, je n'ai pas en tout cas parcouru ce document. Mais ça, j'ai vu seulement un chiffre.
Tout à fait. Ça cadre avec ce que je suis en train de dire ici. Moi, j'ai lu, c'est au-delà de 783 milliards de francs congolais, qui vaut autour de plus de 20 millions de dollars par mois, qui seront en train d'être mobilisés par la province. Si vous rappelez de ce que le gouverneur avait dit dans son discours programme, il a eu à dire que chaque mois, il voudrait mobiliser le tout premier mois 5 millions de dollars et le mois 6 millions. Mais il n'est jamais arrivé à 2 millions de dollars. Je me dis, par quelle magie quelqu'un incapable de mobiliser 2 millions de dollars depuis qu'il est là, il va directement sauter à plus de 20 millions de dollars par mois. Et les députés ont cautionné cette bêtise. Beaucoup déjà disent que les députés n'auraient lu que la page qui a parlé de la dotation provinciale, ou de la dotation au niveau de l'Assemblée provinciale, où on parle que chaque mois, un député aura plus de 9 000 dollars par mois. Et il semblerait qu'ils auraient été motivés
voilà.
Pour qu'ils votent.
Oui.
Donc pour qu'ils votent.
On va attendre lorsque nous
budget.
Allons. Lorsque
c'est
nous allons lire, nous allons inviter
c'est vraiment
également les...
pour nos élus.
Oui.
Parce qu'on n'a rien compris dans ça.
Voilà, ils sont nombre de 48.
Oui.
Nous supposons. Ce sont nos représentants.
Tout à fait.
Nous qui sommes au studio ne sommes pas plus intelligents que. Ce sont des responsables.
Toutefois, ils ne sont plus.
S'il y a eu des erreurs, nous allons.
Tout le monde qui n'est pas élu.
Oui, les bilans, nous allons les juger à l'œuvre s'ils ont cautionné des erreurs. Bon, on va constater.
Oui, tout à fait.
Ils sont au nombre de 48.
À part le personnel, au niveau de l'Assemblée provinciale.
Oui, je disais, ceux-là qui ont voté le budget, ils sont au nombre de 48. Et je crois que le document a été envoyé dans une commission mixte Assemblée provinciale, gouvernement provincial. Et toutes les erreurs, je crois, qui seront corrigées. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai invité le conseiller communal Jonas Mbichot.
Je voulais dire
par rapport à des inquiétudes par rapport justement.
C'est que des nominations.
Oui.
Au niveau de la DPMR.
Oui, allez-y, parce que nous allons
tout à fait. Par rapport à ces nominations, nous regrettons. Parce que ces nominations ont violé l'édit provincial. On ne sait pas vraiment nous vivons quoi aujourd'hui. Nous soutenons le gouverneur, mais il y a beaucoup d'erreurs qui sont en train de se faire voir au niveau provincial. Dans ces nominations, et tout le monde le sait. Le gouverneur n'a pas qualité de nommer les gens à la DPMR, jusqu'à à nommer même les gens dans des villages. Ce n'est pas dans les attributions du gouverneur. Le gouverneur ne devait nommer que les directeurs et les chefs de division.
D'accord.
Et pour ce qui est de la nomination d'autres agents au niveau de la DPMR, c'était le directeur de la DPMR qui devait le faire, et les chefs de division de l'administration notifiaient ces gens et les affectaient. Mais d'accord. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas. Le directeur n'a plus à dire devant ses agents, parce que tous ont été nommés par le gouverneur des provinces.
D'accord.
On est devant une cacophonie au niveau provincial, et nos députés ont cautionné cette bêtise.
D'accord.
Et ce qu'on ne parvient pas à comprendre, le gouverneur, c'est un professeur d'université.
Merci beaucoup.
Est-ce que réellement, il a aussi là des conseillers autour
là
de lui?
Ce sont des commentaires.
Vous avez déjà dit l'essentiel. Pour mieux faire son travail.
Vous avez déjà dit.
On ne comprend absolument rien.
Vous avez déjà dit l'essentiel.
On ne comprend absolument rien.
Merci.
Et je pense que même Katember n'a pas à dire par rapport à ça.
Jonas,
parce qu'on ne devons pas cautionner les bêtises.
S'il vous plaît.
Nous devons attendre à aider le gouverneur pour qu'il fasse mieux. Parce que nous tous, nous voudrions le voir réussir. On ne doit pas continuer à cautionner des bêtises juste parce qu'on a été nommé comme Katembera venait de le dire. Je suis d'accord avec Katembera, on ne peut pas nommer tout le monde.
Mais nous n'avons pas accepté
qu'on vive des bêtises et en train de voir comment on viole les lois de la République.
Merci beaucoup. Jonas, vous êtes conseiller communal. Bonjour.
Bonjour, monsieur le directeur de la radio Maïndéléo.
Voilà, il y avait une inquiétude par rapport à votre traitement. Il y a ces papiers que je venais de lire. Les conseillers communaux venus de différentes provinces de la RDC sont en sit-in depuis plus de 4 jours devant la primature à Kinshasa. Les manifestants réclament notamment leur prise en charge effective par le gouvernement central. À l'instar de députés, selon eux, ils vont quitter ces lieux jusqu'à ce que la première ministre trouve solution à leurs revendications malgré les intempéries. Alexandra Chiama Mamba, élue de Lukonga dans la ville de Kananga et chef de la délégation de la province du Kasaï, a expliqué ceci. Nous sommes déterminés. Nous n'avons pas de place où nous mettre à Kinshasa. Nous vous rappelons aussi qu'à la deuxième journée, le cabinet de la première ministre est venu. Nous nous sommes concertés avec ces gens-là. Nous leur avons proposé quelques protocoles d'accord et nous nous sommes décidés de partir d'ici seulement si la première ministre appose sa signature pour que nous voyons clair dans ces protocoles d'accord. Les conseils communaux municipaux plutôt, réclament d'abord l'organisation des élections des bourgmestres. La seconde revendication porte sur leur prise en charge parce que nous avons été élus le même jour avec le président de la République, avec les députés nationaux, avec les députés provinciaux. Nous, mais malheureusement, ils sont pris en charge par le gouvernement et nous qui sommes de la première expérience, nous sommes abandonnés à notre triste sort, Jonas. Donc, c'est une situation générale.
Tout à fait, c'est une situation générale, alors qui concerne tous les conseillers communaux de la République. Nous sommes restés les oubliés de la République.
Clochardisés.
Très clochardisés d'ailleurs. C'est pour cela que dans notre manière de nous organiser, en collectif national des honorables conseillers communaux, on s'était dit, on en a marre, on va maintenant aller voir Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, qui par ailleurs aurait précisé sur une télé de la République que les conseillers communaux sont pris en charge. On ne sait pas s'il y a duplication des conseillers communaux dans la République. Voilà, on y est allé. On a fait 4 nuits et 5 journées à la primature. Ce n'est que vers 10 heures de la journée d'hier que maintenant l'excellente Madame la Première Ministre s'est décidée de recevoir le collectif national avec lequel elle s'est entretenue et des résolutions ont encore été prises que nous, à notre niveau, nous qualifions encore des promesses parce qu'elles ne sont pas premières. Elle a précisé qu'elle aurait enjoint au ministère des Budgets et celui des Finances d'enclencher directement la procédure, enfin, de prise en charge des élus conseillers communaux et cela en mode d'urgence. On a mis à notre niveau une commission de suivi de cette énième promesse nous faite par Madame la Première Ministre pour voir si jamais, pour une fois, elles seront tenues. Alors ça, c'est la situation au niveau national. Au niveau provincial, nous sommes toujours restés dans cette optique des oubliés jusqu'à preuve du contraire. Parce que depuis le 7 septembre, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, nous aurait placé sous la coupe des gouverneurs de province pour prendre en charge une partie des émoluments des conseillers communaux, leur assurer des bons cadres de travail, également leur permettre de produire un bon travail s'agissant de ce développement à la base dans leurs entités territoriales décentralisées respectives, mais chose qui était restée depuis un moment lettre morte. On a commencé à s'entretenir avec son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province et les autres autorités provinciales sur ces sujets. les débats ont évolué, mais comme vous aviez constaté, lors de la présentation du budget par son Excellence Monsieur le Gouverneur, par des députés provinciaux, une omission encore des conseils communaux était constatée. Et voilà, dans les démarches qu'on avait effectuées, on s'était dit, malgré les télégrammes du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, en voyant les conseils communaux sous la coupe des gouverneurs pour le plus ancien, toujours, ils sont restés oubliés. C'est alors que les collectifs au niveau provincial s'est mis à l'œuvre pour toquer sur toutes les portes qu'il fallait et voir si c'était une omission ou carrément un manque de volonté. C'est alors que dans la commission paritaire mise sur pied pour les toilettages de cette proposition d'édit budgétaire, notre ligne budgétaire serait alors insérée dans ce budget qui sera soumis aux députés provinciaux pour adoption. Alors, nous, à notre niveau, nous allons croire, nous serons apaisés lorsque nous verrons nos comptes être alimentés en termes de prise en charge. D'accord. Alors nous dirons que maintenant les promesses sont devenues réalité, ont été tenues. Et c'est là que les conseils communaux de la ville et de toute la République seraient apaisés en ce sens.
Voilà. Finalement, Kinshasa est en train d'abandonner en tout cas ses obligations. C'est vraiment dommage. Il y a également la question de l'enseignement. Vous rappelez qu'il y a des promesses aussi faites aux enseignants. Il y a les conseillers communaux qu'il faut également prendre en charge. Alors qu'ils se posent... Là, ce sont des salaires, qu'il faut des primes, qu'il faut payer. Mais le grand problème ici, c'est le développement justement de la province, les problèmes de route. Les écoles sont délabrées, et tout ce qu'on a comme problème ici. Je ne sais pas. Et à moi, c'était en train de critiquer, de dire que bon, on a rêvé. Mais face à toutes ces obligations, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je ne sais pas. Nous aurons l'occasion d'y revenir peut-être prochainement. Ce sont des réflexions. Parce que quand il y a des charges, des nominations, des gens qui sont nommés, ce sont des charges. Patient, vous vouliez répondre parce qu'on a finalement, on va prendre finalement le sujet du jour.
Oui, Thaïs, je suis d'accord avec vous sur le fait que nous devons aider la province à aller de l'avant et demander à nos honorables députés provinciaux de ne pas vraiment cette fois-là mettre les bateaux dans les roues du professeur Jean-Jacques Pourroussi pour qu'elle décolle. Parce que effectivement, on a vu déjà une question orale avec le bas. Bon, on ne peut pas avoir peur de ça, mais on s'est dit, est-ce que c'est opportun? Il est très difficile, je l'avais déjà annoncé il y a longtemps.
Sur les nominations?
Oui, sur les nominations, Thaïs. Il est très difficile que l'on satisfasse à un régime sortant qui, presque, il n'y avait qu'un individu qui gérait et tous les personnels étaient presque de son obédience, un personnel que l'on a rencontré et qui ne faisait pas très bien le travail. Tout le monde sait comment est-ce que l'argent de la province a été en train de se volatiliser dans les poches des individus. Mais aujourd'hui, il y a un député, bon, au fait, on n'en parle pas encore, qui, en tout cas, on peut croire la deuxième personnalité de ce régime sortant, qui est en train de penser que le gouverneur des provinces a très mal fait en nommant le gens. Mais aussi, je ne les justifie pas, je ne justifie personne, mais je voudrais rejoindre, donc répondre à la préoccupation de monsieur Amos aussi, qui a pensé que, mais Amos, les agents qui étaient à la 2PMR, qui les avait nommés, depuis que la 2PMR existe, qui nomme les agents à la 2PMR? Tout le monde sait qu'il n'existe pas encore la fonction publique provinciale et locale, qui est pourtant légale, qui doit être là, mais lorsqu'elle sera mise en place, nous pourrons effectivement prendre des mesures qui s'imposent par rapport à la législation en matière de gestion du personnel. Je voudrais aussi, Thaïs, parce que Amos a ramassé les informations dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux.
Non.
Les 9 000 dollars dont on parle ici, Je ne voudrais pas que la population accepte cette mauvaise information. Nous sommes là pour donner la précision.
Je voudrais que je ne veux pas débattre du budget que je n'ai pas
oui,
eu.
Oui, Thaïs, je voudrais que les gens sachent
donner des chiffres.
Parce que Amos en a parlé. Il a parlé il a dit que dans le budget, il est prévu que les députés, qu'un député provincial reçoive $9,000. C'est faux. Je voudrais annoncer à la population de la province du site Kivu que le compte Twitter ou alors X de la province a été piraté par un membre du régime sortant, un membre de la cellule de communication du gouverneur Tongo Abidje, et c'est lui qui est en train d'écrire tout cela sur le compte Twitter de la province. Batouba si waze kama ba député batakwa banapokea il est $9,000 ni bon wa mtupu. C'est quelqu'un qui veut amener la population à une désintoxication, à une désinformation. Les députés babatu basoaseme et bongo, il n'est pas prévu qu'il reçoive ou qu'il touche $9,000.
Revenons à l'essentiel.
Donc c'est une très mauvaise information que détient monsieur Amos, et nous voudrons que la population ici de l'Ekouisikia il est nous à députés provinciaux bongo.
D'accord.
Quand on fout à bas électeur, est soulevé contre les députés, alors que nous, on voudrait que la paix règne à la fois à travers ou dans nos institutions, entre nos députés et leurs électeurs.
Merci, patient.
Aussi, il a parlé de la mobilité. Vous avez demandé qu'on y revienne. Mais quand il dit que le gouverneur n'a pas été capable de mobiliser $2 millions, comment pourra-t-il mobiliser
plus de 20 millions?
Je vous ai dit que, on parlera du budget ici. Je vous ai dit que dans le budget, il y a des rubriques qui ont été prévues, mais dont les recettes viennent de Kinshasa. Entre autres, les rubriques qui entrent dans le secteur de la décentralisation. Je vous ai parlé de l'enseignement. Tout ce que l'on paye aux enseignants ici, c'est imputé à la province. Tout ce que Kinshasa paye aux enseignants en province, c'est imputé à la province. Et il est prévu par la loi que dans le budget ou dans la présentation du budget, que la province tienne compte de ces montants-là. Et donc, on pourra donner des explications par rapport à tout ce que vous avez comme inquiétude lorsqu'il plaira au directeur de programmer
cette matière. On reviendra sur toutes ces matières liées au budget quand nous l'aurons déjà lu. Le président Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda, sont attendus ce dimanche 15 décembre à Luanda, en Angola, pour un sommet tripartite sous l'égide du président angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine pour la crise dans l'est de la RDC. Ce sommet revêt des enjeux considérables pour l'espoir de paix dans la région, alors que des violents affrontements entre les FARDC et l'M23, soutenus par le Rwanda, se poursuivent depuis une dizaine de jours au sud du territoire de Lubero, au nord Kivu. Ce sommet repose sur la possibilité d'un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, dont les relations se sont gravement détériorées depuis la résurgence du M23. Un autre enjeu essentiel est de garantir le respect du cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda. Ce document, bien que crucial pour une désescalade, n'inclut pas la rébellion du M23 qui continue ses offensives sur le terrain tout en exigeant des négociations directes avec Kinshasa. Kinshasa refuse catégoriquement de reconnaître le M23 comme interlocuteur et les qualifie de groupes terroristes manipulés par Kigali. Le statut du M23 représente donc un enjeu majeur selon plusieurs observateurs. Alors, nous allons prendre le premier sujet de cette émission. Comme je l'ai dit, chers auditeurs, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, s'est exprimé devant le Parlement réuni en congrès au Palais du Peuple. Le chef de l'État a prononcé un discours sur l'état de la nation en abordant les 6 axes prioritaires de son programme quinquennal. C'était donc le mercredi 11 décembre. Et concernant le pouvoir d'achat de la population, Félix Tshisekedi a déclaré le jeudi 3 octobre 2024 dans la zone ouest, les litres d'essence est passé de 3340 à 2990.49 francs congolais, et celui du gasoil c'est 3435 Et donc il est passé de 3435 à 2979,73 francs congolais. Cet ajustement représente une diminution de 10% sur l'essence et de 13% sur le gazole, soit une baisse moyenne d'environ 12% sur l'ensemble des produits. Il a aussi rappelé les mesures prises pour baisser le prix de certains produits alimentaires. Les produits essentiels concernés par les accords de réduction de prix entre le gouvernement et les importateurs sont le poisson salé, le lait, le sucre, la viande, les cuisses de poulet et les riz. Les principaux importateurs du pays, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ont signé le lundi 9 décembre des accords avec le gouvernement qui, en contrepartie, va réduire certains prélèvements fiscaux permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier des prix plus accessibles. Et le président de la République s'est montré déterminé dans son discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Et il a promis de promouvoir le secteur agricole afin de diversifier l'économie du pays. Pour la première fois, à travers la loi des finances 2025 que je vais promulguer dans quelques jours, les crédits alloués à l'agriculture sont accrus est maintenu au-dessus de 11% du budget national, bien au-delà de l'objectif fixé dans le cadre des accords de Maputo, a noté Félix Tshisekedi. Augustin Moudekereza, vous êtes de l'UDPS. Vous avez certainement suivi le discours du chef de l'État qui est revenu, en tout cas, sur encore la question de la révision de la Constitution. Mais on l'a vu s'exprimer au futur, Augustin.
Merci beaucoup, directeur. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les discours du président de la République sur l'état de la nation. C'était un discours très réaliste, dans la mesure où le président de la République a fait un tour d'horizon de tous les secteurs qui constituent la vie nationale. Et en parlant de chaque secteur, il a donné des éléments chiffrés en termes de réalisation, ce qui était vraiment un élément qualitatif de ce discours et avec beaucoup de précision. Oui, la question sur la réforme des réformes, pas seulement les réformes, la réforme des changements ou révisions constitutionnelles a été également esquissée dans les discours du président de la République, parce que ce n'est pas un secret, c'est déjà un débat qui est dans les arènes politiques. On en a parlé hier, on en parle aujourd'hui, mais le président de la République a été cohérent du fait qu'à Kisangani il avait dit qu'il allait mettre en place une commission l'année prochaine, en 2025. C'est-à-dire, c'est au futur. Mais la réflexion est d'ores et déjà lancée. J'estime que celui qui connaît le chronogramme, quand est-ce qu'il va effectivement installer la commission qui pourra réfléchir sur une nouvelle orientation institutionnelle qu'on va donner à la République démocratique du Congo. Je pense que tout cela est constitutionnel, parce que l'article 218 cite de façon limitative les instances qui doivent engager ou propulser la révision constitutionnelle. Et le président de la République, il est d'ailleurs le premier cité. Et donc, moi j'ai été très satisfait de ce discours. C'est un discours qui a été réaliste, parce qu'on a parlé de l'économie, on a parlé de la sécurité, on a parlé des infrastructures, et comme je l'ai dit, de façon chiffrée et réaliste. C'est aussi un discours qui donne l'espoir, dans la mesure évidente où il y a une définition vraiment de bons horizons,
et je pense que nous devons y croire. Voilà. J'estime que le président de la République, en faisant ses discours, il a fait sa part. Vous savez, c'est une institution. Mais lui seul, par rapport aux perspectives qu'il a essayé d'ouvrir, c'est pas lui seul qui doit concrétiser cela. Il importe finalement que à chaque niveau de la gouvernance, les gens s'approprient toutes les orientations que le président de la République a pu donner. C'est ainsi, par exemple, au niveau provincial, puisque nous sommes au sud de Kivu. En fait, nous n'avons pas besoin de tous les discours qu'on a suivis ici, par exemple. Le budget a été voté à 100%. Ce dont nous avons besoin, c'est de voir ces budgets, c'est concrétiser que toutes les forces politiques en place se concertent, toutes les institutions travaillent main dans la main pour qu'on mobilise finalement les recettes afin que tout ce que le président a promis puisse être une réalité. Parce que le gouverneur, c'est le représentant du chef de l'État en province.
D'accord.
Oui, oui.
Merci. Defo Balebono, vous êtes financier. Vous avez suivi le chef, le patron de la RDC, c'est Félix Tshisekedi, il s'est exprimé. Je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose dans tout ce qu'il a dit, parce qu'il a abordé beaucoup de points. Mais bon, qu'est-ce qui a attiré votre attention?
Ce qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'est l'espoir qu'il cherche à ressusciter dans le Congolais. C'est l'espoir. Vous savez, quand on n'a pas espoir, on ne peut pas travailler. Quand on n'a pas espoir, on ne peut pas aussi produire. Quand on n'a pas espoir, on ne sait pas aussi gérer. Au moins, le discours du chef a recréé espoir. Et nous pensons que les Congolais qui sont à la manette, pourront maintenant faire de tout leur mieux pour mériter la confiance qui a poussé le patron à avoir espoir en eux et à faire espoir aux autres. Ce qui sera difficile, c'est dans des provinces. Le chef attend beaucoup de provinces. Ce sont les provinces qui créent les richesses de la République. Mais est-ce que les provinces...
Oui, nous créons des richesses, mais l'argent est détourné à Kinshasa.
On peut dire oui et non. On peut dire oui ou non. Je connais de quoi je parle. Parce que les provinces veulent se maintenir. Et ils passent beaucoup de temps dans des actes, dans des engagements pour leur maintien et non pour la prospérité du travail. C'est pour leur propre prospérité. Regarde, on a parlé ici des entreprises avant de commencer ce sujet. Mais Thaïs, on ne peut pas promouvoir le travail si on est en train d'activer le travail qui existe. Il y a trop de taxes d'impôts en République démocratique du Congo. Donc, si tu as commencé ton travail avec 5 000 et que le premier mois, pour être opérationnel, il faut payer les taxes de 30% de ces 5 000, automatiquement, il y a plus de un tiers de ta fortune qui est partie de ton investissement.
Ouais.
Alors, comment est-ce que tu seras prospère?
Et on parlait ici justement de ces projets de la Banque mondiale. On risque de les rater justement parce que vous avez suivi...
On les ratera.
Bernard Zagabe qui a dit
que... Le Congo ne fait pas confiance.
Des exigences, il faut payer la DGI, il faut payer la CNSS, il faut payer l'ONEM.
Et il réclame tout ça.
La division de l'économie, il faut payer... Il faut payer le tourisme, il faut payer, je ne sais pas, l'industrie, ainsi de suite.
Donc, l'argent, alors, les Congolais
tout
produisent.
Ça, c'est l'État qui s'entre dans les caisses de l'État.
Or, pour nous, on pense que l'État, c'est l'administration politique.
C'est ça le mal au Congo. Ceux qui revendiquent les recettes, ils ne les revendiquent pas pour
la population,
pour le pays. Ils les revendiquent pour la stabilité des institutions, donc la stabilité de leur travail. Et c'est ça le mal. On ne peut pas évoluer comme ça. Ailleurs, le politique vient après les autres travails. Le politique vient après les autres travails. Parce que le politique est le boulanger. Vous n'aurez du pain que si le boulanger a travaillé. Chez nous, le politique ne veut pas être le boulanger. Il veut être celui qui est à table. Et c'est comme ça que, vous avez vu, tout le monde est en train de se plaindre. Moi, j'ai pitié pour Pourroussi. Quand Pourroussi est passé, Caméré m'avait dit ceci, défaut, il faut aider notre ami qui vient de gagner les élections. Il faut aider notre ami qui vient de gagner les élections. Parce que moi, j'étais du côté de l'autre challenger. Mais Pourroussi passe. Où est-ce que vous avez déjà vu un match se terminer, la finale? Il n'y a que le trophée du vainqueur. C'est que ce n'était pas une compétition. Et c'est comme ça que ce vainqueur va partir avec ce trophée. Il va en faire ce qu'il veut. Et c'est ce que tout le monde est en train de déplorer. Il a engagé, on accuse fortuitement les gens de chez moi à Irambi Katana. On les accuse fortuitement. Les gens devraient connaître que la ville de Bukavu, où se trouvent les institutions, est beaucoup plus habitée par les habitants de Kabare, donc d'Irambi Katana. Donc en statistique, quand vous allez dépouiller les demandes, il y aura beaucoup plus ces gens-là qui ont postulé. Donc ça ne peut pas faire un débat, parce que les Blancs qui ont construit Bukavu n'étaient pas de nos communautés. Ceux qui ont construit la province n'étaient pas de nos communautés. Donc, Pourroussi lui-même est en train de se diriger vers les murs. Parce qu'il oublie qu'il était en compétition. Et qu'il ne peut bien avancer et bien fêter que s'il est avec celui avec qui ils ont joué la finale.
D'accord. Et Bernard Zagabé, vous êtes dans ce studio, nous sommes en train de parler, pas de Pourroussi, nous sommes en train de parler du discours du chef de l'État. Vous, comme opposition, qu'est-ce que vous avez retenu du discours du président de la République?
Monsieur le directeur, même les agissements du gouverneur Pourroussi reviennent dans les discours du chef de l'État. Et nous ne pouvons pas dissocier les deux. Mais néanmoins, je suis d'avis qu'il faut stabiliser la province. Mais la stabilité de la province commence par le toilettage. Quand vous avez un chargé de communication qui vous parle comme patience et studio, vous ne pouvez pas finir votre mandat. Vous constituez une menace pour le chef. C'est-à-dire, on a connu, la DPMR n'a pas commencé avec vous, patient.
Elle a commencé avec Louis Léonce et avec Défaut Balibouno.
On connaît comment la DPMR a commencé. On connaît comment on a recruté. J'étais du PPRD. Je n'ai pas vu un seul jeune du PPRD recruté à la DPMR.
Oui, nous sommes parce en train de parler du discours du chef de l'État.
Le chef a dit par rapport à la création des emplois. Mmh. Le chef de l'État l'a dit. C'est pourquoi j'y reviens, Thaïs. Et moi, je me dis, aider la stabilité de la province, c'est aussi respecter les normes du jeu. Et le respect des normes et des jeux passe par la minimisation des légères.
On vous a oublié.
Je ne suis ni demandeur ni preneur. Mais moi, je me dis, un gouverneur est passé ici. Tshishambo n'a pas nommé qui que ce soit. Tous les gouverneurs qui sont passés après Tshishambo n'ont fait qu'améliorer, ajouter, ajuster. Mais personne n'a chassé ce qui était déjà là, parce que nous savons tous. Quelqu'un ne peut pas faire 10 ans au travail est venu le chasser, surtout qu'il est dans les services techniques et pas dans les services politiques. Je ne vais pas y revenir par respect envers le directeur, plutôt je reviens dans le discours du chef de l'État.
Nous devons devoir d'abord reconnaître que le discours du chef de l'État commence par un incident majeur grave. Pour tout Congolais qui se respecte, devrait comprendre que ce jour-là, Augustin Kabuya devait être arrêté. Arrêté pourquoi? Parce qu'à la veille du discours du chef de l'État, on avait lu tous un communiqué de mobilisation d'Augustin Kabuya, appelant tous les militants et tous les badauds de l'IDPS de venir au palais du peuple en veste. C'est-à-dire, il était prévu d'humilier le chef de l'État en entonnant l'hymne de l'IDPS devant les deux chambres du Parlement. L'hymne a été entonné par les militants de l'IDPS et j'ai comme impression que les amis n'ont pas compris le niveau de l'infraction qu'ils ont commis devant tous les corps diplomatiques. À partir du moment où les amis ont désacralisé la République, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pouvait attendre du contenu du discours du chef de l'État, parce que le chef de l'État était déjà mal à l'aise.
Qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là?
On a entonné l'hymne de l'IDPS.
C'est une faute.
Je dirais grave. Très grave.
Grave pour la République.
Diplomatiquement et politiquement.
C'est bien visible qui a fait ça.
Non, c'est Kabuya. Un complot de l'IDPS contre le président de la République.
C'est Kabuya.
Un complot de l'IDPS contre le président de la République et toute la République. Nous devons faire attention, on est en politique. Ces diplomates étaient là en train de vous observer. Donc vous avez proclamé le parti unique. Vous avez déchiré la République devant les corps diplomatiques. Et donc, le contenu du message du chef de l'État est nul.
Et sans effet.
Sur le plan fond, M. Thaïs, si nous devons suivre ce que notre ami vient de dire aussi par rapport à la situation des élus au niveau de nos communes, nous ne pouvons pas croire à tout ce que le chef de l'État a dit. Si on regarde la manière dont les élus sont traités, si moi, Zagabe Vanipier, qui est un gardien de la République, si moi, je peux me plaindre, mais pas un élu du peuple quand même. Et puis il dit, nous avons été élus le même jour avec le président de la République.
Exact.
Et aujourd'hui, et si moi j'étais un élu, je devrais déjà me retirer parce que on s'est précipité pour faire des élections au niveau de nos communes. Mais même si on devrait vous payer, pourquoi on devrait vous payer? Parce que le cadre formel du mode de fonctionnement de votre juridiction ou votre entité n'est pas encore mis en place. Il y a beaucoup de textes qui n'ont jamais été mis en place pour votre fonction, pour définir comment vous devez fonctionner. Et tout ça, on avait prévu. On avait prévu. Mais comme vous avez choisi de marcher comme ça dans des ordres, vous finirez par vous manger vous-même. Et nous, on est là pour vous dire non.
Ah, je comprends que vous êtes de l'opposition.
Non, non, je le suis. Je suis fier même d'être de l'opposition.
Je demandais. Oui, vous aurez encore la parole. En fait, par rapport à cette question de conseiller communaux, c'est mal parti. Parce que quand on a proclamé, on a oublié même de donner les résultats. Le conseiller, il est ici, il sait seulement qu'il a réussi, mais d'autres qui ont échoué, la CENI n'a jamais, et on le répète tous les jours, publié les résultats obtenus par tous les candidats.
Ah voilà, directeur, vous venez.
On a seulement proclamé, on a dit tel sont devenus. Voilà, mais on n'a pas su les autres qui ont compéti. Combien ils ont eu pour qu'ils puissent, parce qu'ils peuvent encore entrer dans la danse en 2028.
C'est là que je vous dis.
Alors, donc, c'est une négligence qui a commencé à partir même de la CENI, et aujourd'hui, la suite est là.
La finale n'a pas été proclamée.
Directeur, je préfère entrer dans le fond, parce qu'au moins vous avez tout dit. Sur le plan de la santé, le chef a dit que tout a été amélioré. Mais si nous devons être sincères entre nous au studio ici, qui n'a pas besoin d'aller se faire checker au Burundi, entre nous. On peut ne pas le dire à la radio ici, mais entre nous ici au studio, qui n'a pas de soucis de santé?
et pour nous rassurer que au moins j'ai été bien soigné. Des fois, nous nous privons des autres obligations de ménage pour faire un saut au Burundi, peut-être au Rwanda, peut-être ailleurs. Et au moins là, vous allez vous rassurer que j'ai quand même été soigné. À Bukavu, sur les 2 millions d'habitants vivant à Bukavu, est-ce que nous pouvons nous dire qu'il y a 50 personnes à Bukavu qui ont accès facile à la santé? Si le chef dit qu'il a amélioré des conditions d'accès à la santé, il n'y a que lui qui l'a dit. Et encore, vous êtes sans ignorer, Thaïs, que même pour que le chef de l'État soit soigné, il faut qu'il se déplace ailleurs. C'est-à-dire, lui-même, il est conscient qu'il n'a plus de structure capable de le soigner comme il faut. Sur le plan sécuritaire, Thaïs, je n'ai pas été d'accord avec le chef de l'État en commençant par faire des éloges au Wazalendo avant de le faire au FADC. Il est le commandant suprême. C'est, on le prend aujourd'hui comme de la blague, mais nous risquons d'encourager la mise en place des mouvements, je ne vais pas dire
incontrôlés.
Nous qui habitons en Katana, Kavumu, actuellement, nous sommes suffisamment en insécurité parce que tous les bandits du quartier se promènent actuellement avec les armes et ils s'appellent de Wazalendo. On a connu des situations, des mouvements maïmaï, et on connaît les mécanismes qui ont été mis en place pour les intégrer dans l'armée régulière afin de les contrôler officiellement. Moi, je ne mets pas en cause le travail que les compatriotes sont en train de faire, mais je mets en accolade l'utilisation de ces concepts Wazalendo qui commencent actuellement à être utilisés à tort, à travers, et ça risque même un jour de mettre le gouvernement en difficulté.
Quand il m'achète la nuit,
je suis Wazalendo. Et demain, nous risquons de voir le gouvernement être interpellé pour des faits et commis par ces Wazalendo, parce que dans le discours du chef de l'État, il a commencé par me féliciter et le remercier. Mais si nous regardons comment actuellement le chef de l'État est sécurisé et protégé par des mercenaires, cela prouve à suffisance qu'il n'avait pas raison de dire qu'il a amélioré la sécurité. Parce que lui-même est sécurisé par les étrangers. Moi, les pauvres Zagabe, qui va me sécuriser? Thaïs est de Bagira. Chaque fois quand nous voulons nous divertir, c'est à Biega, terrasse, que... Mais actuellement, on est en difficulté. Parce qu'à partir de 21h, on commence à se dire comment on va arriver à la maison. Parce qu'il y a des groupes de jeunes qui nous mettent mal à l'aise dans des quartiers, et peut-être que ça ne fait pas partie de la sécurité. Et le chef de l'État nous dit qu'il y a même des espaces qui ont été, j'ai pas dit les espaces incontrôlés, et où on commence même à déverser des étrangers. Et ça, c'est très grave, Thaïs.
Voilà. Et donc, je comprends que vous êtes de l'opposition.
Non, je le suis, je confirme.
Vous avez tout un carnet
en plus. Je suis pas venu soutenir le président Félix. Je suis venu contredire son discours. Et je suis fier de le dire. Et je ne serai jamais de son côté. Et ça fait partie de ma fierté, moi. Et donc, je me dis, sur le plan social, Thaïs, qui de nous ici au studio qui n'est pas en train de se poser la question quelle est la réponse qu'il va donner à la maison à son retour au studio? Il s'agit de quel social que le président a amélioré? Je rentre parce qu'il a dit que l'annuaire des listes des agents de la fonction publique a été disponibilisé. Donc, un agent qui vous touche 280 000 francs...
Difficilement.
Non, pas difficilement, parce que régulièrement, cet argent est déposé.
Bernard.
Non,
vous étiez à l'opposition,
grand frère,
quand vous étiez au pouvoir,
grand frère,
vous n'avez pas
cette mine
que tu as.
Grand frère, je m'excuse.
Donc Félix a beaucoup travaillé.
Non, je n'ai jamais été engagé par Félix. Arrêtez. Arrêtez.
Mais tu es dans l'opposition.
Je connais le mode de jeu. Tu penses que tu vas me perturber. Bernard, c'est un ancien de Sayoz. Et tu peux pas, tu peux pas.
Regarde
pas
me perturber.
Protégez-moi, directeur. Protégez-moi, directeur. La radio Mandeléo respecte la modération. Défaut comprend. Que dans la ville de Kinshasa, donc, comme dans la ville de
comme Kinshasa, Bernard a bonne mine, vous pensez que c'est
Bernard, c'est
c'est la gouvernance du pays qui il profite de la gouvernance du pays. Nous, quand on était comme lui, quand on était à l'opposition. Toi-même, tu sais.
La gouvernance du pays n'a pas.
Et aujourd'hui, il roule carrosse. Voilà. Est-ce que nous, on pouvait rouler carrosse malgré tout ce qu'on avait comme moyen?
Avant d'aller à l'opposition, des fois, vous avez commencé au pouvoir. Parce que mon premier secrétaire général du PPRD, c'est Vital Kamerhe. C'est-à-dire, par aigreur, vous avez décidé d'aller à l'opposition. Vous n'êtes pas comme l'IDP.
Vital nous a
Je peux terminer. Je suis en train d'analyser le contenu du discours du chef de l'État. Vous avez eu le temps de le faire.
Non, mais tu ne peux pas.
Moi, je suis en train d'analyser.
Non.
Je suis en train d'analyser le contenu de l'enveloppe salariale de l'agent de la fonction publique. Je suis en face d'un directeur d'une entreprise, la Radio Mandeléo. Il connaît, quand il donne le salaire de base, pourquoi il fait accompagner des avantages. Et donc, quand nous parlons qu'on a amélioré, tous ces éléments-là devraient rentrer. Un agent touche 280 000 francs. Il paye combien comme loyer? Il paye combien comme transport? Il paye combien comme indemnité de vie chère?
Et donc, on a stabilisé quand même les taux d'échange.
On a stabilisé les taux d'échange, 280 000 francs, c'est-à-dire on est à moins de 98 dollars. Et un agent qui vous touche moins de 98 dollars et qui vous paye une maison de 150 ou 200 dollars le mois, vous dites que socialement, vous l'avez mis dans des conditions qu'il faut. Je pense qu'il devrait, le président de la République devrait reconnaître qu'il y a des listes qui ont été disponibilisées, mais il y a encore des difficultés.
D'accord.
Je me limite au niveau de l'agriculture.
Voilà.
Qui n'est pas en insécurité sociale? Qui n'est pas en insécurité alimentaire parmi nous? Parce que, actuellement, la ville de Kinshasa dépend à plus de 99% des produits alimentaires qui nous viennent d'ailleurs. Et on ne peut pas dire qu'on est en sécurité alimentaire quand on ne mange pas de produits de qualité au lieu voulu et moment voulu, et cela dans tout le ménage sans discrimination. Et donc, tant qu'on n'est pas à la hauteur de produire nos propres aliments, on ne peut pas parler qu'on a amélioré la sécurité alimentaire. Je ne suis pas protégé, je ne suis pas à ces agitations, je suis celle de l'opposition ici, mais rassurez-vous, défaut que je suis constant, je ne suis pas un petit communicateur de faux, je connais votre mode de jeu.
D'accord.
C'est-à-dire, sans pour autant redynamiser l'INERA, sans avoir disponibiliser des fonds conséquents à la recherche, il nous sera difficile de réussir l'aspect de la production, ce qui n'est pas encore fait jusqu'à ce jour. Et donc, je pense que le président de la République nous a fait que des projections, comme si c'est aujourd'hui qu'il commençait le pouvoir. Il nous a dit qu'il va nous construire 38 000 km², pendant qu'il est déjà chez Yesu, je ne sais pas, nous en sommes à combien de mois aujourd'hui. Tous les 8 territoires sont coupés de la ville de Bukavu.
C'est bon.
Le projet base pour aller saluer ma famille se trouvant chez Thaïs à Luiro. Je ne sais pas, ça va commencer quand. Or, pendant que c'est le projet base, j'ai suivi que le président de la République a même intégré ça. Dans le projet Picagel, tout ça vous avez récupéré. Et nous disons, merci, nous devons suivre l'exemple de la Corée du Sud. À un certain moment, il faut apprendre à dire aux dirigeants que vous êtes en train de nous mentir. J'invite toute la population à ne pas prendre en compte le discours du chef de l'État et patienter encore parce que nous sommes en train de nous organiser aux élections de 2028 pour vous donner une gouvernance.
Vous invitez la population à la
rébellion ? Je n'invite pas la population à la rébellion, j'invite la population à la patience. Parce que ça fait longtemps qu'on a été affamé, ça fait longtemps qu'on a été cloché. On ne peut pas gérer en mettant les hommes dans l'espoir. On donne à manger aujourd'hui et pas dans l'avenir.
Le discours du chef de l'État, j'espère que vous n'allez pas me prendre beaucoup de temps. Quel aspect vous a intéressé?
Merci pour la parole accordée encore une fois. Comme Bernard l'a dit juste au début, tout le monde a condamné ce qu'on a vécu ce jour-là au niveau de l'Assemblée nationale. Et on est en train de regretter, de constater que nous sommes en train de revivre le parti État de triste mémoire avec l'IDPS au pouvoir aujourd'hui. Dans une manifestation officielle au niveau de l'Assemblée nationale, suivre que l'IDPS a fait chanter son hymne, vraiment c'était scandaleux. Et on a vu les députés nationaux, les sénateurs, même les dignitaires de la République cautionner cette bêtise. Comme Bernard l'a dit, le même jour-là, Kabuya devait être arrêté. Il serait en train de répondre de ses actes aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes en face d'une justice manipulée, tribalisée, et ça fait la honte de la République. Ça fait la honte de la République. Vraiment, tout Congolais avisé devait condamner cette attitude que nous avons vécue ces jours-là. On ne sait pas la République va où avec la gestion de l'IDP. C'est pourquoi nous sommes contre le changement de la Constitution pour ne pas continuer à cautionner cette médiocrité à outrance qui est en train de se faire voir où que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au niveau du pays. Parce que si nous acceptons le changement de la Constitution aujourd'hui, c'est-à-dire là que nous allons, ça sera scandaleux. Ça sera scandaleux, ça sera une dictature jamais vécue au niveau de la République. Et c'est pourquoi nous invitons aujourd'hui tout le peuple congolais à résister contre ce plan diabolique de l'IDPS. S'agissant du discours du chef de l'État, vraiment, nous pensons que le chef de l'État ne vit pas au Congo. Il vit sous une autre planète. Il ne vit pas au Congo. Par rapport à ce que nous avons suivi. On ne sait pas si c'est ça l'Allemagne d'Afrique qui nous a promis. Ce qui m'a fortement touché, quand on parle du discours sur l'état de la nation, on présente ce qu'on a fait, pas ce qu'on fera. C'est pourquoi souvent, dans un discours sur l'état de la nation, le chef de l'État ne doit pas utiliser beaucoup les futurs. Mais ce qu'on a suivi, c'était comme qui dirait le président était en train de battre campagne. Je ferai. Et je suis scandalé de suivre des faux dire. C'est un discours qui suscite l'espoir. Non, vous devez apprendre à respecter le peuple congolais des faux. Vous devez apprendre à respecter le peuple congolais. Au lieu que le chef de l'État dise, par rapport à ce que j'ai promis aux Congolais, j'ai fait. Il s'est mis à dire, je ferai. Je veux construire 38 000 km de route de dessert agricole et 11 000 km de route asphaltée. Nous sommes où des faux? Soyons sérieux.
Le papa est allé au travail.
Soyons au sérieux de fond.
Papa est allé au travail.
Non.
Va dire aux enfants qu'ils ne paieraient pas les minéraux pour vous.
J'ai dit non de fond.
Arrêtez
de perturber l'émission de fond.
S'il vous plaît.
Je prends quelques secteurs de la vie.
Attention, il y a les auditeurs qui sont en train de
suivre. Je prends quelques secteurs de la vie. Sur le plan sanitaire, le chef de l'État a craché sur le peuple congolais. Quand il a dit... Il a parlé de la gratuité de la maternité. Il faut voir les mamans qui sont en train d'être clochardisées parce qu'ils ont manqué le moyen, même des mamans qui fuient. Ça va dans Marisa Kuzala, on a dit que le peuple va maintenir la maternité pendant plus de 5 mois, pendant plus d'une année. Pourquoi tu veux qu'on a fait une année? Ma maternité, seulement parce que ça fera dans la coulisse. Mais je vous ai vu acclamer un tel discours, c'est honteux pour vous des fois. Ils ne font pas mettre son intelligence au service du mal en train de soutenir ce qui ne va pas au niveau de la République. C'est très scandaleux pour vous. C'est le plan sécuritaire. Là, c'est grave. J'ai toujours dit qu'on aimerait voir le chef de l'État aller battre. Il y a eu la sensibilisation pour ce qui est le changement de la Constitution à Rutshuru, à Bunagana. Mais on a évoqué la question de Wazalendo.
Est-ce que c'est bien que voilà, bien République.
Après, moi, on est bien République.
depuis c'est tout le corps baladé au sein de l'opinion. Pourquoi parce que quoi qu'il y a ça, la ville de Jérémie a constitué.
D'accord.
Mon balabal, directeur, c'est vous qui direz, en quoi on a dû promener un balabal.
Alors.
Parlons des infrastructures,
directeur. L'avenir, oui, oui.
Parlons des infrastructures. Là, c'est grave. Il faut voir la voirie au sein de la ville de Bukavu. Parce qu'il y a Gatrimbert, c'est vous qui dirigez la province. Quittez Nyaoura pour l'essence.
Mais
non, c'est scandaleux.
Amos, vous êtes
la route industrielle.
Vous n'êtes pas de l'opposition.
Non, je ne suis pas de l'opposition, mais je suis citoyen congolais qui vit la souffrance nous imposée par ces régimes.
Apparemment,
de la honte.
Apparemment, vous l'avez
maudit.
Zadir, vous êtes en train de soutenir Bernard Zadir.
Je ne suis pas en train de soutenir Bernard, mais je ne peux pas soutenir aussi le mal. Je ne peux pas cautionner le mal.
Vous ferez
moi, je ne dis.
On peut perdre.
Non. Je ne dis que ce que le peuple congolais vit aujourd'hui comme souffrance lui imposée par ces régimes de la honte et maudit. Parce que ça ne se fait pas comprendre par rapport à toutes les promesses qu'on nous a faites, qu'on vive ce qu'on est en train de dire. Directeur, ce que nous vivons, si nous pouvons vivre de telles routes au niveau de la ville, que pouvons-nous dire de nos routes, dans nos villages, dans nos territoires? Là, c'est scandaleux.
Amos, est-ce qu'il n'y a rien de positif que vous avez suivi dans ces discours?
Rien de positif.
Oh là là.
À part des promesses fallacieuses, des résultats irréalisés. L'année prochaine encore, au niveau de l'Assemblée nationale, Nabil est venu de t'aborder dans le coin de Bilfanika.
Moi, je vais aller faire ma litre à carburant, il est choquant.
Pardon? Léo, tout contre l'on était à carburant à Bukavu, à plus de 3500. Personne ne va me contredire ici. Moi, elle contredire où? Parce que c'est ce que j'aime. 3500. Non, nous devons éviter de tromper la population quand même. Moi, elle contredire où quand même 3500 litres de carburant et au-delà. Par rapport à
l'opération
3500 de faux. En sortant ici. Non. Sur la création des emplois, directeur.
Alors,
là, c'est grave.
Le chef a tiré des chiffres où?
Je ne sais pas. Des fois, je me dis, le chef est mal entouré.
Parce que lui, il a dit que le litre d'essence est passé de 3340 francs congolais à 2990.
Les auditeurs peuvent appeler. Les auditeurs peuvent appeler.
Des fois, mais quand la province augmente des agents à la DPMR. C'est la province maintenant, avec les taxes provinciales, les taxes communales, comme nos amis conseillers communaux.
Mais est-ce que maintenant il y a
des ministères qui fixent?
Est-ce qu'il y a des républicains?
Je voulais dire, les auditeurs de fond. Je voulais dire,
je viens d'acheter le cabinet.
De fond.
Les totales.
De fond. Je suis en train de citer le directeur. Moi, je pense que de fond. Doit apprendre à respecter la population parce que les gens peuvent appeler. Le litre du carburant à Bukavu, il continue à 3500.
C'est 3000.
Évitons de tromper la population de faux. Évitez de tromper la population, population qu'on a faite. Demain, tu vas encore postuler dans cette ville et vous risquez d'avoir honte. Je voulais parler de la création des emplois. Pourquoi Léo, à plus de 98%, il y a chômage. Nakuna Tenpingaou. Même ceux qui soutiennent cette médiocrité aussi en sont victimes. Maintenant, par rapport à l'éducation des faux, vous pouvez vous confier que nos enfants venaient de faire plus de 2 mois à la maison. Qui va me contredire ici? Nous sommes dans quoi? Ben, conseiller communaux, Abba Beviko Clochard, ils sont devenus des clochards, des mendiants, dans la rue. Haoutan condamné, des mendiants dans la rue. Mais ils ont été élus le même jour avec les chefs de l'État.
Merci.
Et ils continuent à faire des courbettes. Moi, je l'ai redit dernièrement.
C'est le gouverneur pour aussi qui a recruté certains d'entre eux.
T'imagines? Ce chef de conseil.
Un élu
recruté. Quelle injure, quelle moquerie. Ce qui me révolte, ils continuent à faire des courbettes devant quelqu'un qui est à la base de leur malheur.
Tu peux être en face d'un riche.
Merci.
C'est-à-dire, ils sont en train de mentir ici. Il y a un conseil communal ici. De faux. Il y a un représentant des conseils communaux. Je voulais citer en disant la population congolaise devrait comprendre que ce régime, c'est un régime de honte. Qui ne nous amène nulle part. J'ai dit nulle part. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, le contraire des discours. Et je vis tous nos députés acclamés. Comme qui dirait, il serait des moutons de panier.
Monsieur,
non, je suis dit, finalement, nous vivons quoi dans ce pays? Monsieur, et pourquoi nous continuons à élire ces députés, ces sénateurs qui ont applaudi le malheur de leurs électeurs? Vraiment, c'est honteux pour nos élus là.
Honorable conseiller communal Jonas,
on ne sait pas nous sommes dans quoi. Vraiment, c'est honteux pour ce régime.
Merci beaucoup. Voilà, vous avez suivi. Vous avez suivi Amos, en tout cas tout est noir, chez lui il n'a rien suivi, et c'est plein de mensonges dans les discours du chef. Je ne sais pas quel est votre avis.
Merci beaucoup, mais avant de revenir, il fallait que j'éclaircisse un point. Les conseils communaux, quoi que Clochard disait, ne font pas partie des mendiants, ils ne font pas la mendicité,
voilà,
ils ne font pas la courbette, pardonnez n'importe qui. Les communicateurs du gouverneur est ici, ben nous félicitons la radio Mandeléo qui continue à promouvoir en permettant les conseillers communaux de s'exprimer pour éclairer à la population ce qui se passe. Parce que beaucoup croient que nous faisons la mendicité, que nous allons faire la coubette par-ci, par-là. Et nous décrions par ailleurs le fait même, je l'ai dit, je ne pouvais pas sortir de ce studio sans pour autant parler. Un élu du peuple arrive au gouvernorat, il vient voir l'autorité provinciale, de surcroît l'autorité des tutelles selon les textes. Mais le protocole ou le chef du protocole du gouvernorat se permet de laisser toute une journée en train d'attendre voir le gouverneur. C'est pas parce qu'on est venu mendier. Encore sur rendez-vous, on vient voir l'autorité des tutelles pour lui faire part de ce qui se passe entre les communes. Ni l'ignore ici la résistance qui existe à ce jour entre les collèges exécutifs communaux, c'est-à-dire les bourgmestres, et les conseillers communaux élus des circuits, les organes délibérants des communes. Maintenant, on vient voir le gouverneur, il ne fait pas de ce qui se passe dans les communes, mais un nommé du protocole du gouverneur, c'est donc le kilo de laisser l'élu légitime du peuple à l'extérieur.
Deux fois, ne prenez pas la parole.
Non, ce n'est pas à dire qu'Abaya Tujua, ce n'est pas à lui de dire que Balisha Tujua. Il ne doit que faire son travail.
Après, on a la veste. Il paraît que pour voir les structures, pour porter la veste.
Non, là n'est pas même la raison. Là n'est pas la raison. Parce qu'avant d'être conseiller communal, les autres conseillers vivaient.
Tout à fait.
Là, beaucoup ont abandonné leur emploi pour éviter l'incompatibilité.
Tout à fait.
Dès qu'ils n'ont pas de veste à porter, ils en ont.
Parce qu'ils n'ont jamais été nus.
Ils en ont, oui. Mais non, ça c'est un comportement qu'on décrit dans un état de droit, cela ne doit pas se passer.
C'est un incident passager, je crois que vous l'avez quand même vu.
Non, nous ne l'avons pas vu.
Mais moi, après.
On a fait plus de 4-5 heures en train d'attendre. Quand il nous a parlé de ce qu'il a dit, nous on s'est décidé de...
Je connais le chef du protocole du gouverneur, c'est quand même un garçon bien qui fait bien son boulot.
Bon,
peut-être que l'autorité avait d'autres rendez-vous. Bon, il faut toujours repasser, peut-être qu'il vous verra.
Non, on est venu sur rendez-vous. Mm-hmm. On a vu le directeur de cabinet qui a régularisé. Mm-hmm. Quand on est venu, je ne sais pas ce qu'il y a pris, le chef du protocole. C'est vous qui le dites, un garçon ne s'est pas organisé.
Oui.
Mais nous, on n'a rien vu d'organisation chez lui. Et on le dit ici, si nous entend, il doit changer. Parce qu'on n'était pas les seuls à décrier son comportement ce jour-là. Mmh. On était même avec un magistrat, procureur, qui voulait aussi voir l'autorité, mais qui d'ailleurs a été scandalisé et est parti. Il est parti avec fureur. Et je ne sais pas s'il pourrait même revenir au gouvernement pour voir l'autorité. Je ne sais pas le message qu'il a porté.
C'est triste.
Mais lorsqu'un chef du protocole se comporte comme, je sais pas moi, un autre gouverneur, voilà. Dans une
tasse, ne parlons pas trop du protocole, parce que le protocole répond également à un programme. Peut-être que c'est un incident passager. Et moi, j'ai dit, bon, il faut positiver les choses. Il faut prendre encore rendez-vous, certainement, que vous allez voir. Je ne vois pas la raison qui peut faire que l'on vous décale ou qu'on refuse, que vous ne puissiez pas rencontrer le gouverneur de province.
Voilà, le collectif va tirer les conséquences.
Tout à fait.
Et voir ce qu'il pourrait faire quant à ceux. Alors, donnez-moi de revenir un tout petit peu. J'ai entendu de l'autre côté de la table... le représentant de l'UDPS parlait de révision au changement de la Constitution. Nous, parcourant la Constitution, nulle part où on précise les changements. Les changements de la Constitution est inconstitutionnel. C'est la révision qui est prévue.
Oui, l'article 218 précise d'où peut provenir cette initiative de la révision. Également, cette même constitution a, à son article 220, précisé que certaines dispositions sont intangibles, même parlant de la révision. Alors, il ne serait pas bon de vouloir changer les choses, être en train, en même moment, d'en vouloir les contraires. Parce que la Constitution, lorsqu'elle n'a pas prévu le changement, il est aussi, c'est pas moins indécent de parler du changement, parce que c'est être contre cette propre Constitution, cette propre Constitution qu'on est en train de taxer des étrangères. Alors, parlons des points positifs, nous ayons enfin touché dans le discours. Moi, je m'entendais à ce que le chef de l'État parle du parachèvement des élections au niveau local. Parce que c'est aussi parmi les choses qui font la une ces jours. Le processus électoral a été enclenché, le président de la République a été élu, les députés nationaux, les députés provinciaux également, les conseillers communaux. Mais c'était prévu que les conseillers urbains soient également élus, les bourgmestres adjoints et les maires de la ville. Dans la ville de Bukavu à ce jour, on ne sait pas facilement évaluer la gestion de la mairie par le maire. Parce que nous nous attaquons à ce jour aux bourgmestres, ils ne s'entendent pas avec les conseillers communaux pour certains. D'ailleurs, on peut féliciter le bourgmestre de la commune de Kadutu qui a compris que les conseillers communaux existent déjà et qu'il doit collaborer avec eux. Et la semaine dernière, il a présenté son projet de décision budgétaire de la commune pour lecture par cet organe délibérant de la commune de Kadutu. Les bourgmestres de la commune de Kadutu sont à ce jour parmi les bourgmestres les plus civilisés. Ça, on ne peut pas ne pas le dire ici. Et donc, lorsqu'on n'a pas parlé du parachèvement des élections au niveau local, en tout cas, on ne peut pas dire que le discours a été pour nous bien accueilli. Ça, il ne faut pas être hypocrite. Parce que dans nos lamentations, dans notre mémo lu et soumis aux autorités, on l'a précisé. On a précisé. On ne peut pas espérer au développement, même pas de la province, lorsqu'il existe quelque chose qui ne dit pas son nom. Les conseillers communaux sont élus. On a dit, non, les textes ne sont pas bien organisés. Il y a une loi sur les ETD qui précise les attributions, qui organise les job descriptions de chacun. Si on a accepté que les conseillers communaux soient installés aussitôt leur élection, c'est qu'on a compris que leur existence était tout à fait légale. Maintenant, il existe des bourgmestres nommés qui, lorsqu'il va de leur intérêt, il mobilise les éléments de la loi sur les ETD. Mais lorsque c'est pour clochardiser les conseillers communaux et vivre dans toute illégalité, il nous parle du décret sous-tendant leur nomination. Nous sommes issus d'une nomination. Donc, s'il n'y a pas ce point qui précise d'abord que le développement doit être, en tout cas, comme une pyramide. On a dit le pouvoir central a ses attributions, la province a aussi ses attributions, il y a aussi les entités territoriales centralisées, c'est-à-dire le niveau local, qui doit aussi porter sa pierre à l'édifice en étant bien organisé. Et donc, ce point devait aussi figurer clairement pour espérer au changement, d'accord, pour espérer au développement de notre pays, les seuls que nous avons en fait.
D'accord, Jonas Katembera, vous avez également suivi le chef qui a parlé, qui s'est exprimé, ne revenait plus sur ce que les autres ont déjà dit. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous?
Bon, on ne peut pas ne pas y revenir, pour autant qu'il y en a qui ont dit et qui a touché à la bonne habitude du gouverneur de province. Mais on s'en tient d'abord au discours. Moi, je suis de l'AFDCA, j'ai entendu parler de l'agriculture. Ah oui, parce que vous connaissez que nous, dans nos symboles, les effigies qui font partie de notre patrimoine, il y a aussi la houe. Il y a la houe, et donc le chef a parlé de l'amélioration du secteur agricole. Il a rejoint
automatiquement la loi qui avait été proposée par l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo en ce qui concerne l'amélioration de l'agriculture en République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut pas vivre sans l'agriculture. Aujourd'hui, l'économie congolaise est axée sur deux secteurs prioritaires, l'artisanat minier et l'agriculture. Et j'ai été contacté le chef de l'État et fait allusion à l'amélioration de l'agriculture en République démocratique du Congo. Et pour moi, c'est l'occasion de tout faire pour que cette loi soit en tout cas vulgarisée, non seulement vulgarisée, mais aussi publiée au journal officiel afin qu'elle soit d'application. Je voudrais aussi parler de Bernard. Bernard a pensé que nous sommes en 2012, si pas en 2013, on fait les premiers textes de recrutement à la 2PMR. Je crois 216 personnes recrutées, mais nous connaissons la période pendant laquelle on a parlé de niangélisation de la 2PMR et des services publics au sein du cabinet du gouverneur des provinces. Ce n'était pas à cette période. S'il vous plaît, niangélisation, c'est un terme qui a existé, mais c'était à la période du mandateur du PPRD. Aujourd'hui, j'en connais des chefs de centre. S'il vous plaît, Bernard, soyez posé. J'étais très calme quand tu parlais. Hein. Aujourd'hui, j'en connais chef de centre synthétique à la 2PMR qui n'avait jamais passé les tests, recruté comme chef de division, aujourd'hui chef de centre. Ils n'avaient jamais passé les tests. Ils sont du PPRD. Je peux vous en produire de près, vous en connaissez plus. Quand est-ce qu'ils avaient passé les tests? Nous connaissons la période pendant laquelle on a parlé de non-tenderisation. Ce n'était pas pendant cette période. C'était pendant la période de mandataire du PPRD. Donc je crois quand même que vous devez en tout cas réfléchir par deux fois avant de prononcer vos mots. D'accord. Je vous connais comme enseignant et je vous respecte parce que vous êtes respectable effectivement, mais au moins pour une fois vous devez peser vos mots. Et donc je crois que, et puis le gouverneur pour aussi, aujourd'hui on parle de lui, il a rencontré 764 agents à la 2PMR. Comment avait-il été recruté? Le cadre organique même prévoit-il qu'il y ait 764 agents à la 2PMR? Ce sont là les irrégularités que nous devrions tous fustiger et encourager les mesures idoines que le gouverneur des provinces est en train de prendre pour mettre de l'ordre dans ce service-là qui est très d'accord. Important. C'est mais la régie provinciale. Discours, mais en tout cas, c'est pas le fin du PPRD qui peut fustiger aujourd'hui le fait que le gouverneur est nommé déjà à la 2PMR. Franchement, ça doit venir de quelqu'un d'autre, pas quelqu'un du PPRD.
Merci.
J'ai des détails, je n'ai pas assez d'états, et si vous voulez que je vous en produise, même après, dans les coulisses, je peux vous en parler, Bernard. Et donc, nous devons tous, parce que cette province, elle est nôtre, vous évoluez aussi dans cette province, vous avez les soucis qu'elle a de l'avant, opposé que vous soyez, mais le développement quand tu l'es là, vous en profitez. La sécurité, vous venez de décrire ce qui se passe quand les gens sont à Biegatera.
Avec notre mandat,
et n'est-ce pas
les
que...
opposants sont bien, ils vivent bien.
Effectivement.
Tout le monde doit d'ailleurs aller à l'opposition.
Effectivement. Et donc, je crois que nous devons tous chercher comment encourager à la fois le gouverneur des provinces et les services de sécurité pour que même quand vous avez touché, vous ayez la possibilité de bien jouir de tout de votre salaire sans être inquiété. Je voudrais aussi parler de... Il a parlé de l'enseignement. Bon, en fait, c'est vrai, on ne peut pas dire que tout est rose, mais est-ce que par rapport à l'enveloppe salariale de l'enseignant, il y a de cela 5 ans, 6 ans, le régime en place a-t-il minoré cette enveloppe ou la majorer. S'il vous plaît, je ne dis pas que c'est suffisant. Hein? Non, nous analysons. Nous analysons. Je ne dis pas que c'est suffisant. Je suis fils d'un ancien enseignant. J'ai grandi entre le maître de l'enseignant et moi, je suis une fabrication de l'enseignement. Je ne dis pas que l'enseignant a aujourd'hui ce qu'il lui faut. Il faut plus, il faut qu'on lui donne davantage. Mais nous voudrons analyser. Est-ce que la période d'il y a 6 ans, 7 ans et cette période... Est-ce qu'on a minoré l'enveloppe de l'enseignant ou on l'a majoré? Je suis aussi de l'administration publique parce que je suis de la division provinciale de la décentralisation. Les agents de l'État, j'en connais qui avaient des numéros matricules depuis 20 ans.
mais qui n'avait jamais été mécanisé et payé. Mais aujourd'hui, les processus avancent. C'est chaque 3 mois qu'il y a mécanisation de nouvelles unités, entre guillemets, des agents matriculés, mais non mécanisés et non payés. Et donc, je crois que c'est vrai, il y a des choses à améliorer dans plusieurs secteurs, ça nous reconnaissons, il y a des défis, mais on ne doit pas non plus méconnaître les avancées dans d'autres secteurs. Et donc, moi, je crois que nous devons chercher à savoir où est-ce que ça va pour que l'on renforce, où est-ce que ça a bâclé pour que l'on puisse voir ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. On a parlé, et là c'est l'aîné Defoe qui a parlé des taxes. Il a dit trop de taxes. Mais la nomenclature, d'ailleurs aujourd'hui, le chef de l'État a fait allusion aussi à la nomenclature. Parce qu'aujourd'hui nous utilisons encore la nomenclature du 18 mars, hein, n'est-ce pas? Oui. Du 18 mars 2018, si j'ai bonne mémoire. De 2018 à aujourd'hui, les choses ont avancé et je crois que nous devons adapter cette nomenclature. Et j'ai été content de comprendre que le chef de l'État y a fait allusion parce qu'en fait, c'est aussi la boussole de tout ce que nous pouvons avoir comme mobilisation des recettes. S'il n'y a pas une nomenclature adaptée, il y aura trop de taxes dormantes, il y aura en fait beaucoup d'irrégularités et c'est pour ça que nous avons encouragé.
Sur les double taxations. Hein, et des arrêtés interministériels qui datent de longtemps et qui demandent de l'argent aux assujettis. Voilà, c'est tout ça comme problème. Mais on a senti aussi qu'au niveau provincial, on ne met pas un accent particulier sur les autres taxes et impôts, parce qu'au fait, tout revient à la province. Je crois que l'argent mobilisé par la DGRAD, également la DGI, c'est l'argent sur lequel on prélève la part de la province. Mais on se rend compte que dans les discours, même dans la sensibilisation, c'est comme si ce sont des services qui travaillent pour eux-mêmes. Je crois qu'on devait développer un mécanisme
qui permet
de ne pas séparer les taxes, parce que tout ça, ça appartient à l'État. Et ça embrouille un peu la CGTI. Vous voyez, vous avez les divisions d'une part, et puis vous avez la DGI, vous avez également la DGRAD. Alors, on ne sait pas... Oui, parce que les CGTI, ils vous disent, bon, qu'on va déjà diviser l'économie, va les pitap. Qu'on va déjà y a des gérades, va les pitap. Qu'on va déjà y a des GI, va les pitap. Alors, là, si j'ai
dit, il y a du flou.
Donc, en tout cas, c'est un travail qu'il faut faire pour assainir le secteur et espérer avoir de l'argent.
Oui,
sinon, c'est de la
améliorer le climat. Oui, c'est pour ça que le gouverneur des provinces a décidé de mettre sur pied le guichet unique. Pour que l'on puisse, non seulement il va diminuer, j'ai dit qu'il n'y a que 3-4 jours depuis qu'il a déposé le budget, depuis que le budget a été voté. S'il vous plaît, il a décidé d'abord de réduire, n'est-ce pas, de minorer les taxes, pour que, en fait, parce que l'entrepreneuriat doit être encouragé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a déjà donné, en termes d'encouragement en tout cas symbolique, à plus de 86 entreprises, la contribution de la province pour que ces entreprises aient ne fût-ce que la possibilité de fonctionnement. Et il l'a fait. Je crois que les entrepreneurs qui avaient réussi ça ont été contents. Et ils continuent à insister à ce qu'il y ait une minoration des taxes. Et pour le gouverneur Pourroussi, quand vous entreprenez votre activité, il vous sera accordé la possibilité de fonctionner pendant une année, si pas plus, sans payer les taxes. En fait, lui-même s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de tracasseries, comme le directeur venait de le dire. Tantôt c'était la division, tantôt c'était le service, tantôt c'était le service.
Il faut diminuer les collecteurs de taxes.
Mais aussi, ils sont nombreux. Mais aussi, il faut comprendre la logique de fonctionnement de notre pays. La Constitution, à son article 3, prévoit que notre pays est fortement décentralisé et les entités territoriales décentralisées sont citées, entre autres, à part les provinces, la ville, les chefferies et ou secteurs. Et donc, on a donné, au nom de cette décentralisation, une partie des pouvoirs, une partie des ressources, dont les ressources financières, ont été données aux provinces. Merci et donc, beaucoup. Il n'y a pas encore eu, à mon avis, harmonisation en ce qui concerne les taxes
du pouvoir central et celle de province, parce qu'il y a des cacophonies. Et s'il y en a déjà, qu'on donne la possibilité aux assujettis de comprendre les limites de leur pouvoir et de leur devoir. Et donc, je crois que les chefs de l'État, en parlant de ça, nous devons aussi en tirer profit et penser comment les experts à la matière comme Defoe et les autres peuvent aider la province à faire comprendre aux assujettis ce qui est de leurs devoirs et de leurs obligations, et que le pouvoir aussi, comme Proust est en train de le vouloir, mette chacun à l'aise, quoi.
D'accord. Merci beaucoup. Espérons que nous allons y arriver. Mais Defoe, comme financier, je sais que vous êtes conseiller dans ce domaine, il se pose vraiment des sérieux problèmes. Hein. Vous payez une taxe à la DPMR, vous payez également à la DGRAD, une même taxe, hein, sur la même taxe, vous prélevez un pourcentage à la DPMR, donc c'est la province, et sur la même taxe, vous prélevez quelque chose, un pourcentage à la DGRAD, mais également, vous devez payer la TVA. Hein, sur le même acte. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Pourtant, c'est l'État, parce que l'argent qui va à la DGRAD, la province aura encore une fois un pourcentage. L'argent qui va à la DGI, la province aura un pourcentage. Mais l'État crée encore une autre structure, qui est la DPMR, pour également prélever quelque chose, et vous allez voir. Vous pouvez avoir, par exemple, une autorisation de bâtir pour construire votre maison, mais la mairie va vous exiger de payer également, la commune va vous exiger de payer également, et ça, finalement, ça devient beaucoup, ça devient trop, ces initiatives de l'autorité provinciale, même du chef de l'État, sont encouragées.
Au fait, le Congo, le Congo n'a pas de problème du contribuable. Ce n'est pas le contribuable qui est le problème, mais c'est le percepteur, donc le mandataire de l'État. C'est le percepteur. Parce que tout le monde veut être percepteur, taxateur au Congo. Tous ces jeunes qui sont en train d'aller vers les politiques, ils ne cherchent que le travail de perception. Tous vont y retrouver. Alors, ils vont où? Ils vont tous se rencontrer chez un seul. Vous savez, je vais vous donner. Je vous donne une information la plus vraie. La plus vraie. Au moins aujourd'hui, vous avez des dignitaires, vous avez des politiciens qui payent leurs impôts. J'étais parti payer mes impôts à la DPMR. J'ai vu sur une table. La société de Lukobo venait de payer à peu près 346 000 dollars. J'ai vu sur une table à la DPMR.
Vous avez vu?
Moi, je partais payer pour ta mère. Je partais payer les impôts de ta mère, les IF et les IREL. Vous comprenez? J'ai vu! Donc, si deux personnes en un seul mois peuvent réaliser pour la province 500 000 dollars, c'est que la province ne peut pas manquer de l'argent. Je vis, je suis un expert comptable, et moi-même, ces jours-là, j'étais parti payer mes 142 dollars.
Qu'est-ce que vous avez vu, hein? Je n'ai pas bien compris, papa Defoe.
Moi-même, j'étais parti. Le petit Defoe que vous voyez était parti payer ses impôts de 142 dollars. Le mois. Ah oui. Donc, nous pensons que les gens devraient être honnêtes. Le Congo, t'as toi, tu payes tes impôts. Aucun Congolais qui ne paye les impôts. Ok. Parce que sur chaque facture, il y a la TVA.
Où va cet argent?
Mais maintenant, voilà, cet argent se perd dans les mains de tous ces jeunes qui sont en train de courir derrière les politiciens, Mounipatia, Dami et Kazi. Il y a même ceux qui veulent faire des grèves ou des sittings devant leur parti politique parce qu'on ne leur a pas encore donné du travail.
Pas dans les projets de ce même dirigeant.
Ça signifie que... Est-ce que vous comprenez le niveau
d'abord,
est-ce que vous comprenez le niveau de destruction sociale dans ce pays? Les membres des partis politiques qui se disent aller faire les sittings à leur siège, à leur bureau, parce qu'ils n'ont pas encore eu du travail.
Vraiment.
Est-ce que les partis politiques sont des entreprises?
Voilà. Merci beaucoup. Ce sont des entreprises politiques. Merci beaucoup.
Non.
Non. Il y a beaucoup de choses à revoir dans ces pays.
Il faut travailler l'individu congolais.
Oui.
Le percepteur congolais et non les contribuables.
Oui.
Les contribuables congolais. Personne, personne. Parce que nous tous, nous payons d'abord la TVA. Sur ta facture de consommation de l'eau, de l'électricité, tu payes automatiquement la TVA. Quand tu pars acheter quelque chose dans une boutique, tu payes déjà la TVA. Maintenant, il appartient aux dirigeants, à nous les dirigeants, à nous qui voulons, qui tenons être des dirigeants, de bien accepter maintenant ce que nous percevons, d'encadrer et de faire le suivi, parce qu'il n'y a pas de suivi de tous ces taxateurs, il n'y en a pas.
Voilà.
On nomme les gens à la DPMR, on les laisse aller se débrouiller.
Voilà, voilà, c'est ça le grand problème. Comme je le disais, comme je vous ai dit, aujourd'hui nous sommes le 15 décembre. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Et j'étais en train de révéler et dire que si nous parlons de la rétrocession, c'est sur l'argent que nous payons également à la DGI, que nous payons à la DGRAD, parce que ce sont, et la DGRAD récolte également l'argent pour le gouvernement central, mais c'est sur cet argent-là que l'on rétrocède au niveau de la province. Mais maintenant, les agents de la DGRAD et de la DGI ne devaient pas se considérer comme si c'est Kinshasa ou rien. Mais on a constaté que, apparemment, il n'y a pas trop de collaboration entre ces services qui dépendent directement de Kinshasa et la province. Et la province a tendance à s'intéresser plus à l'argent qui est payé par la DPMR. Peut-être parce que c'est l'argent directement que l'on reçoit. Mais je crois que dans le cadre de la collaboration, on devait en tout cas, au niveau de la province, on devait savoir ce que fait la DGRAD, on devait savoir ce que fait la DGI, parce que tout ça fait partie de l'enveloppe de l'État et du gouvernement, parce que de cet argent, on reçoit la rétrocession et il y a les fonds d'investissement pour peut-être construire des routes. Voilà. Donc c'est tout un problème.
Que fait le ministre, Taïsi, je m'excuse, que fait le ministre des Finances en province? Que fait le conseiller financier du gouverneur? C'est ça leur travail réel.
Au niveau du Sénat, alors,
j'ai dit l'essentiel.
Avant le 30 décembre, ça sera également la fin de la session de septembre, la session budgétaire au niveau des assemblées provinciales. Alors, quel bilan nous sommes en train de faire? Parce que le 23 novembre, ça sera également une année depuis que ces gens-là, nous les avons élus. Ils sont au nombre de 500 à l'Assemblée nationale. Ils sont au nombre de quoi? De 100 au niveau du Sénat. Et au niveau provincial, il y a 48 personnes en qui nous avons placé notre confiance. Et au niveau de nos communes, je crois qu'il y en a 8.
27 à travers la...
Voilà, voilà.
9.
Voilà, mais... on sent que les conseillers communaux sont en difficulté, en tout cas une année après. On ne peut rien attendre ou le reprocher de quelque chose parce que bon, l'installation a été vraiment difficile, ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Seul le chef de l'État, comme on l'a dit, pourra décider de leur sort. C'est dommage que les élus puissent organiser des sit-ins. Voilà, Augustin Mdekereza, vous êtes dans ce studio. Le travail des élus, la prestation de nos élus, voilà.
Oui, merci Thaïs. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais...
Nous n'avons pas assez de temps.
Oui, effectivement. Mmh. Mais ce que je voulais fixer, c'est que l'IDPS n'a pas pour intention de devenir un parti État, parce qu'il a combattu un parti État.
Malheureusement, c'est que je voulais.
Il ne peut pas. Il ne peut pas revenir dans cette situation-là. Et puis, je voulais rappeler aux auditeurs qui nous écoutent que passer à l'opposition, ce n'est pas passer au purgatoire. Parce qu'en fait, Bernard a semblé faire comme s'il est déjà purifié. Il oublie que le régime de Tshisekedi porte un lourd poids d'un passé néfaste du PPRD. Je pense que je fais mienne...
C'est comme hériter d'un père ivrogne.
Voilà, effectivement. Alors, donc, le régime Félix Tshisekedi est sur le processus de réparation. Voilà. Et donc, Amos pour Amos, bon, tout le monde constate que Amos n'a plus suffisamment de choses à apporter au débat, mais rappelle que pour un discours, il y a toujours une partie des réalisations, ce qui a été fait, et une partie des perspectives. Et donc, changement constitutionnel par rapport aux conseillers. En fait, quand on interroge les droits constitutionnels, il n'y a aucune constitution qui prévoit son changement.
Mais au c'est monde, ce que vous prêchez.
Mais par ailleurs, les constitutions sont changées. Parce que les changements sont le fruit d'une réflexion selon une époque donnée. Ça, il faut noter. Encore que même la constitution actuelle, il n'y a aucune disposition qui refuse le changement. Et donc
la constitution voilà. N'est pas éternelle.
Non, elle n'est pas éternelle. C'est fruit d'un contexte. Et donc, pour notre ami Patient, c'est que moi, je ne comprends plus Patient quand il fait sa communication, lorsqu'il dit que le président a réjoui son autorité morale. Non, ce n'est pas vrai, parce que.
Il n'y a pas de programme.
Il n'y a pas de programme.
Pour le pays.
La vision du chef de l'État. Qui a comme élément la revanche du sol sur les sous-sols.
Merci. Les élus.
Et donc, ce que je voulais dire, c'est que... Ce que je voudrais dire, c'est dire que, oui, sur le plan juridique, les élus ont trois missions, en fait. On dit qu'ils doivent contrôler, ils représentent, ils contrôlent, ils légifèrent. Mais là, c'est toute la question, c'est poser la question de savoir, il légifère pour qui, sur quoi, comment. Moi, j'ai toujours pensé que
oui, c'est là qu'il... Disons, est-ce qu'on peut y aller concrètement?
Oui.
Vital Kamerhe, il est le président de l'Assemblée nationale. Comment vous avez, comme citoyen de Bukavu, comment vous avez jugé ses prestations? Il y a Modeste Batilukwevo qui est le deuxième vice-président
du Sénat.
Il y a les élus que vous connaissez. Est-ce qu'il y a ceux-là qui sont sortis du lot et qui ont fait quand même quelque chose? C'est ce que je voulais demander.
Tout à fait.
Concrètement.
Oui, moi, je pense que concrètement, ça sera un peu difficile. Mais je pense qu'il faut situer les débats au niveau général. Parce que concrètement, nous allons nous perdre. Et donc, moi, j'ai dit qu'il y a des missions classiques du député. Je note qu'il y a également des missions perçues par la population. Et quand on parle des missions perçues, et c'est là que je vais beaucoup insister, ça veut dire que chaque individu essaye d'attendre du député quelque chose selon les contextes dans lesquels il avait vu agir. Ça veut dire, nous qui sommes ici, nous comprenons la loi. Mais il y a d'autres qui ne comprennent pas la loi suffisamment. Par exemple, vous allez trouver quelqu'un, il vous dit, la mission des députés, c'est participer au deuil.
Ou au mariage.
Au mariage.
Voilà.
Vous voyez, c'est un aspect sociologique.
Nous restons qu'avec quelques minutes, s'il vous plaît.
Alors, je vais finir.
En général, il y a ceux-là qui ont fait quelque chose, et d'autres qui n'ont pas fait quelque chose, qu'on n'a pas suivi.
Oui, il y a de... Tout à fait. Comme vous avez parlé de l'honorable Vital Kamerhe, je pense que il fait bien jusque-là son travail au
oui,
niveau du
mais est-ce que vous pensez qu'il y a certains députés qui ont remonté, par exemple, les préoccupations de la population vers le haut au niveau national?
Justement, il y en a. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Mais parce que le travail d'un député, ce n'est pas un travail individuel, encore une fois. Parce que les députés, même ceux qui prennent, parce qu'aujourd'hui il y a une sorte de course à la prise de parole et au partage des vidéos, des interventions, c'est pas comme ça que fonctionne le Parlement. Parce qu'il y a un député qui peut n'avoir pas pris la parole, mais il a suffisamment travaillé au sein des commissions. Merci mais avoir déjà les budgets comme ils ont analysé, ainsi de suite. Pour 2025.
Mais un parlementaire dans la nature, c'est quelqu'un qui doit parler.
Oui, absolument, mais il ne faut pas aussi parler pour parler. Il y a d'autres qui travaillent.
D'accord, Augustin. Comme on n'a pas assez de temps, on va. Défaut, voilà. Le travail de nos élus.
Le travail de nos élus. Le plus reste important. C'est Vital Kamer.
On normalise.
Comme Sophonie, et c'est ça la première lecture d'aujourd'hui, dimanche, hein, quand il y avait une forte crise morale, parlementaire, sociale dans la société, Sophonie s'est dressée, c'était parmi le plus reste important. Et le plus reste important que la société congolaise, que ce soit la société sociale, la société politique en République démocratique du Congo n'attendait qu'une seule personne parle. Et la personne a parlé. Et vous voyez, depuis que la personne a parlé, il y a accalmie. Il y a accalmie. Qu'on le veuille ou pas, nul ne peut refuser. J'ai suivi ces France internationales aujourd'hui, où on parlait que, enfin, les Congos, nous avons identifié que le Congo a un politique qui connaît ce pays. Kamere, la population attendait que tout le monde parle. Les uns ont parlé pour protéger leur travail, la stabilité de leur travail, de leur nomination. Ils ont parlé. Ils se sont secoués, ils ont même donné de l'argent. Ils se sont même déplacés. Mais Sophonie ne s'était pas déplacé pour remettre l'espoir et ses caméras aujourd'hui. Depuis que Kamer a parlé.
Alors, vous pensez qu'il fait bien son travail à l'Assemblée nationale?
C'est le meilleur parce que...
Des meilleurs.
Le plus meilleur des meilleurs. Parce que aujourd'hui, Zagabé est à l'aise. Il a mis l'opposition dans ce rôle réel de parlementaire de l'opposition. Vous les voyez s'exprimer. Vous voyez tous les opposants s'exprimer. Et est-ce qu'il y a un seul député de l'opposition qui dit que Kamere n'est pas le meilleur des meilleurs? Il a mis la population en confiance, en espoir, en parlant. Vous avez vu les uns défiler ici, donner de l'argent pour dire ce que le président de la République n'avait pas encore dit et n'a pas encore dit.
D'accord. Merci beaucoup, Bernard Zagabé.
Bon,
le travail des élus au niveau national et provincial.
C'est ridicule. C'est ridicule parce que parmi les gens sur qui la province devrait compter, il y a des faux balibounous. Mais quand il vient nous parler, se moquer de la population sur l'apport de Vital Kamerhe, je vais dire, ce pays n'a pas de chance. Et si c'est comme ça qu'il faut faire la politique, moi je commence à me décourager. Je me dis,
mais est-ce qu'il ne fait pas
Vital Kamerhe et Nkwebo, Vital Kamerhe fait son travail comme politique au rang qu'il occupe. Mais il ne fait pas son travail comme élu au rang des attentes de ses électeurs.
D'accord. Et moi, évitons alors de parler des individus.
Non, non, ce sont nos élus.
Ah oui.
Parlons en général. Au moment où ils ont été élus dans la ville de Bukavu, nous avons l'obligation de les évaluer.
Dans nos territoires.
Et donc, ici, on n'est pas en train de parler de
comme des individus, mais nous évaluons nos élus.
D'accord.
Et moi, je me dis, les deux grands élus, dont Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo, ils sont suffisamment suroccupés par la sommité politique. Ils sont en train de se battre sur les intérêts de leur parti, le positionnement de leur parti politique. Et ça fait que élire des députés de ces rangs-là, au niveau de la base, ça crée un petit souci. Parce
mais,
que,
mais c'est comme si vous ne suivez pas la RTC.
Je suis en train de suivre.
Les plénières qui sont modérées par Vital Kamerhe.
Et je te dis, Vital comme président
ouais.
de l'Assemblée nationale, il fait bien son travail. Parce qu'il a ramené les débats à l'hémicycle.
Au niveau de l'hémicycle.
Mais Vital comme élu, qui a une redevabilité par rapport au problème de ses électeurs. Il est submergé par les obligations du président de l'Assemblée nationale.
Qui vous a dit ça?
Je vais le dire parce qu'on vient tout de suite de décortiquer les problèmes fiscaux. Et pour moi, si on avait des députés, on devrait déjà dénicher des faux chevauchements qu'il y a dans des arrêtés et dans des obligations qui nous amènent à payer les taxes que vous avez évoquées. Et donc, quand vous suivez le débat au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont des débats purement politiques, si je peux le dire, que des débats sociaux. Et donc, les vrais problèmes que nous avons, nous, populations, ce sont des débats qui ne sont pas souvent évoqués parce que nous n'avons pas les députés qui sont dans leur base et qui suivent au quotidien les problèmes de leur base. Et donc, si je dois évaluer les autres députés, je me dis... L'unique député que je vois qui se débrie, qui est à côté de sa population, c'est Moutiki. Ça, c'est mon point de vue.
Mais qui lui a donné la parole? C'est Vital Kamerhe.
Non, non, je ne dis pas par rapport à la parole à l'hémicycle.
Oui,
je l'ai dit par rapport...
Il est le député de Kamerhe.
Je ne suis pas en train d'évaluer le président de l'Assemblée. Je ne suis pas en train d'évaluer le président de l'Assemblée. Mais je vois sur toutes les lignes... Chaque fois qu'il y a un problème, je vois Mouti qui s'est prononcé. Mais, il se prononce aussi souvent en désordre. Et il y a des matières qui l'échappent. Et il doit éviter le populisme dans la manière de faire.
Il est encore
et donc, à un certain moment, il y a des débats qui peuvent engager. Parce qu'il veut se faire une bise au niveau de la population. Mais ça peut lui créer aussi d'autres... problème.
Oui, Bernard,
mais néanmoins,
j'ai dit qu'il faut éviter de citer les noms des gens, mais je crois que Moutiki a fait bien son travail, il s'est exprimé, il a été le seul qui a parlé des problèmes de route que nous connaissons dans la province du Sud Kivu, il a parlé des questions des Chinois qui exploitent nos minéraux sans contrepartie.
De manière illicite.
Bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire comme élu? Mais il faut retenir aussi que c'est lui qui lui a donné. Vous pouvez être un bon député, vous avez de bonnes idées,
mais monsieur, ne donne pas la parole.
Le président va vous priver la parole.
Mais
parce que la prise de parole se programme également.
Mais
vous pouvez initier une question orale avec débat ou je ne sais pas, une interpellation.
Même l'autorité morale est maintenant à féliciter.
S'il vous plaît, au niveau du bureau, on va bloquer. Et là,
mais c'est le
travail
de Vital Kamerhe. J'ai dit, Vital Kamerhe, comme président de l'Assemblée nationale, il a remis le débat
au
niveau de l'hémicycle. Il fait bien son travail. Mais moi, je suis en train de parler comme un citoyen qui attend des réalisations d'un élu. Et moi, je me dis, nous avons beaucoup de problèmes sociaux, mais je me dis, est-ce que nos députés savent bien ce que nous attendons d'eux?
D'accord.
Et là, je me dis, il y a des lois. Est-ce que vous savez, Saïd, il y a des lois, il y a des conventions au niveau international, signées depuis l'époque de Mobutu, qui devraient déjà être révisées parce que ça nous met en difficulté. Jamais évoqué par les députés. Le débat de sous-traitance dans ce pays.
Bernard, Félix.
Le débat des sous-traitances, vous savez, aujourd'hui, avec le débat des contrats déterminés, contrats indéterminés dans des ONG, vous savez, c'est lui qui nous avait mis en difficulté. Et cet arrêté-là devrait déjà être révisé au niveau de l'Assemblée nationale.
D'accord.
Au niveau provincial, je me dis, nous n'avons rien à évaluer. Les députés nous ont causé la honte.
C'est scandaleux.
Voilà. Nous avons des audios. Nous avons des audios et je me dis, au niveau provincial, nous sommes ridicules.
Vraiment, c'est honteux.
Les gens sont en train de se battre jusqu'à utiliser des concepts. Et n'y a pas guéri à la
c'est honteux, vraiment.
Et je me dis, est-ce que vraiment un gouverneur qui a une vision en face de lui, il y a des députés crédibles qui peuvent avoir le temps d'avoir de rendre compte. Ils sont derrière de bas des intérêts, des guéguerres inutiles, des lamentations, des indiscrétions, improductivité. Et moi, je me dis, en tout cas, la population devrait être trop exigeante, envers les députés provinciaux. Parce que, à la lire où vont les choses, monsieur le directeur,
nous attendons que la session se termine.
En tout cas, moi, je pense.
Nous allons inviter les
j'invite tous ceux qui soutiennent la province d'ici de Kivu à former. Moi, je pense qu'il y a. Tous ces députés devraient être formés. Il faut les capacités parce qu'il y a une crise qui s'observe aussi qui vous. Malheureusement, même ceux qui ont été réélus, après 5 ans d'expérience, et moi, pour avoir eu le privilège d'être dans le cercle du FCC, je connais nombreux parmi eux, je connais leur mode de fonctionnement, je me dis, nous ne pouvons pas demander une chose à son contraire. À partir du moment où on a demandé la démocratie, nous devons être trop rigoureux par rapport aux agissements des élus et au site qui vous, au niveau provincial, c'est ridicule. Je n'ai même pas besoin d'être appelé honorable. D'accord. Je préfère les appeler les députés parce qu'ils n'ont pas cette honorabilité pour être appelés des honorables.
Donc, uko na bambia ba chane na maudio za kolomba ma poste.
Non, niko na constaté que ma bangana na problème ya bugali na mboga.
Et c'est ridicule.
Merci.
Que c'est royal.
Voilà.
Ok. Mais il y a la question qui revient souvent. Quelle est encore l'importance des élections en RDC? Cette question revient toujours. Et c'est pourquoi la dernière fois on a dit qu'il fallait que le peuple congolais réfléchisse sur une autre alternative de sauver le pays en péril aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit, et tout le monde l'a dit, est-ce que nos élus connaissent leur mission? Est-ce qu'ils connaissent leur rôle? Nous sommes en train de constater avec regret que les assemblées, que ce soit au niveau national ou provincial, sont devenues des caisses de résonance des exécutifs. Et quand ils arrivent, ils oublient qu'il y a la population qu'ils représentent et ils se font manipuler par leur ventre, par leurs autorités morales ou immorales, je ne sais pas, et surtout par les partis politiques. Au niveau national, on est décidé de constater, tout avec ça quand même, certains débats que nous voyons au niveau de l'Assemblée nationale, mais ce qui se fait, ce n'est pas dans l'intérêt de la population. Tout le monde attendait, avec ce budget qui vient d'être voté, qu'on devait réfléchir sur la réduction du train de vie des institutions, chose qui n'a pas été faite. Et tous nos députés, personne n'a évoqué cette question. Où les dignitaires touchent des milliers et des milliers de dollars. Et le même Jacques que j'essaie de qualifier de sorcier politique.
Ça ne peut pas venir de ceux-là qui vont bénéficier. Ça, c'est l'impulsion qui devait être donnée
par le chef de l'État. Tout à fait, lui-même.
Fixer et dire.
Désormais.
Le budget vient du gouvernement.
Tout à fait.
C'est le gouvernement qui
mais
propose.
Mais cautionné et voté par nos élus. Donc, comme patron budgétaire.
Cette recommandation, Amos, c'est adressé au chef de l'État. C'est lui qui peut décider que l'on réduise le salaire.
Il n'a pas évoqué ça dans son discours, malheureusement, parce que lui-même en est bénéficiaire, même s'il a toujours dit qu'il ne connaît même pas son salaire. C'est ridicule pour notre chef de l'État. Où des dignitaires touchent des milliers et milliers de dollars, mais les mêmes acceptent, je suis en train d'être chuté directeur, acceptent de donner aux militaires, à un policier, à un enseignant difficilement de 140 000 francs. On a vu au niveau de l'Assemblée nationale, des interpellations de certains ministres. Qui peut me dire la suite de l'interpellation de mes beaux ministres du budget, la suite de l'interpellation du ministre des Travaux publics, Alexis Guissaro, où on a vu des députés se ridiculiser. Un député qui prend d'abord le courage de signer sur une motion, et puis par la suite, il va retirer sa signature. Pourquoi il est médiocre, putain, il est. Et encore des intellectuels à cette autorité morale à Nita Kenambia, ni retirer signature en
d'accord.
Quel encore, quelle médiocrité de somme. Par rapport au niveau provincial, c'est là que je cite. Au niveau provincial, dire, on a honte de dire aujourd'hui que nous avons des élus provinciaux. Vraiment, on a honte. Bon. Par rapport aux odieuses, c'est quoi ton femme a raison. Par rapport à tout ce que nous suivons, vraiment, c'est ridicule pour nos représentants, pour nos élus provinciaux.
Alors, un conseil, c'est de demander aux députés provinciaux d'annuler ou de bloquer leur groupe WhatsApp dans lequel
ils font des échanges,
parce que les messages là fuitent et ça arrive au niveau de la population. C'est imprudent de continuer à garder ces groupes WhatsApp.
Et de se faire filmer partout où ils passent avec le gouverneur, c'est vraiment ridicule.
Ce ne sont pas eux qui filment, c'est la population qui peut le filmer.
Mais ils s'exposent
aux leurs ridicules. Échanges devaient être gardés secrets. Je me rappelle qu'à l'époque où nous étions de passage à l'Assemblée provinciale, il y avait des huis clos fermés. Quand il y avait des questions privées aux députés, ils s'enfermaient. C'était loin. Mais maintenant, quand les députés provinciaux doivent étaler les nominations, les recommander, ce que Google, Kamata, Matuyako, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent ridiculiser.
Mais maintenant,
et la population n'a pas besoin de ça. La population a plutôt besoin de
travail.
Voir que le travail est bien fait.
Maintenant, je voulais citer par rapport au niveau provincial. Souvent, quand il y a débat pour ce qui est du niveau du budget, comme ce qu'on venait de vivre au niveau provincial. Tout le monde a tenu compte de certains secteurs de la vie. On a évoqué la question des conseillers communaux, on a évoqué la question de l'éducation. Mais par la suite, ils ont voté ce budget à 100%. Ou c'est différemment. Quoi? Et c'est là qu'on a fustigé qu'ils auraient touché un peu de... Ils ont amené voter le budget à 100%. Après avoir fustigé que ce budget ne prenait pas certains... Ce sont des corruptions alors qu'ils cautionnent. Non. Permettez. Jusqu'à cautionner le mal.
Non,
comme il y a une freine de l'électeur,
non.
Apprenez à respecter la population de vous.
Non.
Pourquoi on a dit qu'il fallait
apprendre?
C'est moi qui ai la parole de faux. Moi j'ai dit, est-ce que tu peux me laisser parler? Est-ce que tu peux me permettre de parler? J'ai dit ceci, quand les députés peuvent fustiger que le budget ne répond pas aux attentes de la population, que le budget n'a pas repris certains secteurs clés, et puis ils vont voter ce budget à 100%. Vous trouvez ça une contradiction?
Tout
simplement parce qu'ils auraient été motivés. Je voulais citer.
Moi, je sais, quand j'étais souvent à l'Assemblée provinciale, pour. Vous savez que les députés provinciaux, d'ailleurs, c'est pourquoi les députés actuellement n'organisent plus de plénière, mais les députés avaient ce qu'on appelait les jetons de présence. Ça s'élevait à 50, quoi, à l'époque.
Chaque plénière.
Oui, pour chaque plénière, les députés avaient un jeton, ce qu'on appelle jeton de présence. Mais peut-être qu'on a annulé ça. Oui, s'ils participent à la plénière, en tout cas, ils signent à la question de retirer son enveloppe.
Je pense que les gens n'ont pas suivi. C'est ça qui m'a motivé.
Le fait de lecture, en tout cas, ça existe depuis que l'on a commencé.
Acceptons que ça existe, mais ce qui m'a fortement touché,
que nos députés...
Acceptons ça, directeur. Mais que nos députés fissent la manière dont le budget a été présenté, ça n'a pas respecté certains secteurs, et puis par la suite, ils vont voter ça à 100%. C'est ce que nous fustigeons. Je comprends que c'est à cause de cette motivation-là.
Mais ça a été amené dans une commission.
En citant maintenant, il faut se toucher. On a vu juste après les nominations au niveau de la DPMR. Il y a un député, Jérémy, qui a déposé une question auprès du gouverneur. Mais si vous essayez de voir, il y a contradiction entre les mêmes députés eux-mêmes. Dédé, le gouverneur avait, quand le gouverneur a chassé les anciens agents à la DPMR, il a dit que le recrutement se fait voici à prétexte que patients nous disent ici qu'ils représentent le gouvernement provincial. Où est-ce que ce texte a été organisé?
Nous sommes plus en train de...
Oui, ça raconte notre préoccupation. Parce que les députés se taisent. Et les contradictions que je viens entre députés au niveau provincial.
Le travail parlementaire.
On constate qu'il y a un désordre.
Est-ce qu'il y a eu des propositions de loi? Une proposition d'édit, par exemple, je voulais savoir si vous participez aux plénières. Est-ce qu'il y a eu, comme on a dit au niveau national, que les plénières
on ne voit pas ce genre d'activité au niveau provincial aujourd'hui.
Et
beaucoup de gens sont en train de se poser la question, est-ce que nous avons un bureau qui est à la hauteur de ses responsabilités au niveau de l'Assemblée provinciale du Tigre aujourd'hui? Beaucoup de gens fustigent la manière dont ces bureaux travaillent. Parce que beaucoup de députés même disent nous ne parvenons pas à comprendre. Beaucoup de députés, si vous les racontez, ils vont vous dire ne comprenons pas la manière dont notre bureau aujourd'hui fonctionne.
Et c'est comme qui dit ce bureau qui sera en train de cautionner, conseil le mal au niveau de la province. Moi, j'étais en train de dire, et beaucoup de gens se
posent votre propre travail.
Pourquoi on a chassé les anciens agents à la DPMR? Parce que la situation
s'est
empirée par rapport au recrutement qu'on a connu.
Vous êtes revenu sur ça plusieurs fois.
Vraiment, ça révolte.
Jonas,
ça révolte, on ne comprend pas le travail de
Mugichot.
Pourquoi on les a aidés?
Vous êtes conseiller communal de Baguira, voilà, et rapporteur du collectif des conseillers communaux. Comment vous évaluez le travail que vous avez fait?
À notre niveau,
mais,
à notre niveau, nous essayons d'apporter la pierre à l'édifice.
À Baguira.
À Baguira. D'abord, et puis, s'agissant des conseils communaux de la ville, parce que, comme on était en train de le dire, on doit évaluer l'élu en fonction des prérogatives qui lui sont reconnues. On ne doit pas lui demander plus que ce que lui reconnaît la loi. Parmi les missions qui sont les plus régaliennes à l'élu conseiller communal, c'est de contrôler la gestion de la commune par le collège exécutif communal, c'est-à-dire le bourgmestre, et à quelques égards être l'autorité budgétaire de la commune, même si on n'est pas encore arrivé dans plusieurs communes. Alors, à Baguira, nous avons des commissions, deux, commission PAJ et la commission ECOFIN, qui sont à l'œuvre et qui doivent présenter les rapports de la gestion de la commune s'agissant de ces commissions, lesquels rapports doivent être déposés aussi au gouverneur de la province, parce que jusqu'à preuve du contraire, n'ayant pas des bourgmestres élus, c'est seul le gouverneur qui peut recevoir ces rapports et tirer les conséquences idoines. Si je peux un peu parler du travail des élus en général, le travail parlementaire, je ne veux pas trop répéter ce que les prédécesseurs ont dit sur ces sujets, mais il faut reconnaître, s'agissant du rapprochement des élus à leur base, on ne peut pas ne pas admettre, on ne peut pas ne pas vraiment confirmer que parmi les rares députés à être proches de leur base, et du coup à avoir justement fait parvenir les doléances de la base à l'hémicycle au sein de l'Assemblée nationale. Il y a également Olive Moudekereza. Il est tout proche de sa base dans sa logique de proximité et il est en train de parler. Il parle au niveau de l'Assemblée nationale, il a parlé des érosions dans la ville de Bukavu. Il a parlé des incendies à Rwanda, en fait.
Merci,
je peux finir par la sécurité. Katembe a vanté la sécurité. On ne peut pas ne pas aussi jeter des éloges à son excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur, Fokamaï Kansejou, qui ne cesse de se battre bec et ongle pour que la sécurité au niveau provincial garde son standard. Sous la houlette, bien sûr, du gouverneur de la province, ce sont des actifs, il faut reconnaître. Il ne faut pas toujours voir les choses en noir là où c'est fait en blanc.
Merci beaucoup, Jonas. Pascal Katembe, on termine par vous.
Oui, Thaïs. Je devrais d'abord. C'est pas si tout le monde notait que nous étions dans une session essentiellement budgétaire. Parce qu'il s'agit d'une session de septembre. Est-ce que les budgets ont été votés? À l'Assemblée, oui. Et à l'Assemblée provinciale, oui. C'est ce qui veut dire que les députés ont fait le travail pour lequel cette session avait été convoquée. La deuxième des choses, au niveau des individualités, parce que Bernard Zagabe en a parlé, le débat a repris normalement à l'Assemblée nationale, et c'est une fierté pour la province du site Kivu, qu'un digne fils de la province, le débat démocratique, s'il vous plaît, ce débat démocratique. Pour nous, nous pensons que c'est rien parce que nous vivons avec lui, parce qu'il est nôtre. Mais dans d'autres provinces, on s'est dit, comment on peut avoir aussi un digne fils qui puisse ressusciter un débat aussi démocratique comme celui-ci. S'agissant de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, il a été président du Sénat et nous avons vu comment il a organisé les choses. Il n'y a plus de détournement comme il en avait été le cas. Je connais ce que je parle parce que nous connaissons celui qui l'a remplacé. Et si je vous dis des choses, Bernard, vous pouvez fuir. S'il vous plaît, je voudrais terminer. Je voudrais terminer en disant que, s'il vous plaît,
s'il vous plaît, vous
devez tolérer le débat, vous devez tolérer des vérités. Il y a des vérités
qui sont à notre portée et que nous ne sommes pas obligés de mettre.
On ne peut pas dissocier l'AFDC et le PPRD.
S'il vous plaît, Bernard, s'il te plaît, je te dis que.
C'est l'émanation des candidats.
Est-ce que tu peux comprendre?
S'il vous plaît.
Donc, au Sénat, comme je le disais, nous avons vu le contrôle parlementaire être organisé et ça a fait gagner à la République des millions de dollars. Nous avons vu pour la toute première fois le président, l'honorable président du Sénat, le professeur Modeste Batulukwebo, initier une loi sur l'agriculture. Il n'y avait jamais eu un président d'une chambre qui s'est un jour mis sur sa table réfléchir, peuple congolais, initier une loi. Aujourd'hui, la proposition de loi pour protéger les femmes victimes de violences basées sur les genres, c'est parmi les acquis de l'honorable professeur Modeste Batulukwebo comme parlementaire. Voilà. S'il vous plaît,
nous sommes
obligés. Je parle de la loi ou de la proposition de loi pour protéger les femmes victimes de violences basées sur les genres. Et donc, nos élus ont fait correctement le travail pour lequel nous les avons élus et ils ne sont qu'au début de leur législature, qu'au début de leur mandat. Nous devons continuer à leur faire confiance et éviter d'amener les peuples à penser qu'ils ne travaillent pas pour la population. Ils ont 5 à 4 ans devant eux et nous devons les encourager.
Merci. Fin de l'émission Paix et Développement. La rediffusion, c'est demain lundi, 19h30 sur Radio Mendeléo. Merci à l'honorable Jonas qui est conseiller communal de Baguira et rapporteur du collectif de conseillers communaux. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Merci, Patient Katembera, coordonnateur de la CELCOM du gouverneur de province. Merci.
Merci beaucoup, Thaïs.
Augustin Mdekereza Kasenge. Merci. Communicateur de l'IDPES.
Merci, directeur.
Amos, militant du mouvement citoyen BAPE-GRDC. Merci.
C'est un plaisir.
Bernard Zagabe Biogo, il est du PPRD, suivez-vous, il est communicateur. Bonjour et merci.
Fier d'avoir associé à ces débats, monsieur le directeur. Nous nous remettons à votre disposition
pour de prochaines émissions. Merci.
Pour la suite.
Merci à l'aîné Defo Balibuno Linda. Merci, il est de l'UNC, de Vital Caméré. Merci, cher aîné.
Ce n'est pas Defo qui va vous remercier, c'est beaucoup plus l'honorable Vital Caméré qui vous remercie pour l'organisation de cette émission.
Merci.
C'est aussi l'honorable Amato Bayoubassire qui salue les combattants, les militants de l'UNC et qui salue beaucoup plus sa base électorale de Mugogo.
Voilà, je sais qu'il est en train de nous suivre, honorable Amato, il nous suit à partir de Kinshasa, il suit sur le www.radiomendeleo.org et à tous les autres internautes, nous disons merci parce que vous nous avez suivis. Merci également au technicien Jean-Claude Ndagué. La rediffusion c'est demain lundi. Merci, bon dimanche.
Shukran.